Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite scène de vos gorgons?
Ça veut dire qu'on est piégés, ça tient pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour! Bonjour les amis, vous allez bien?
Bonjour, oui, très bien, Emilien et toi?
Salut!
Oui, ça va. Bonjour à vous, on aurait aimé commencer cet épisode par vous dire bonne année, mais bon, on a décidé qu'il était, il était trop tard pour le faire.
Fin janvier. Le mois n'est pas fini, je crois.
Ouais, mais bon, moi j'ai décidé de ne pas passer, après le 15 janvier j'arrête, mais sachez que le cœur y est quand même. Couvre-feu oblige, on est forcé d'enregistrer très tôt le matin.
Ça va.
Oh oui, mais bon, le réveil a été compliqué pour un réveil de week-end.
Surtout pour un dimanche.
C'est en plus. Alors, soit on va s'effondrer petit à petit au fil de cet épisode, soit on va tenir bon comme des... parce qu'on est très courageux. Heureusement, c'est un mois de janvier plutôt léger que nous avons passé devant les écrans. Alors, au programme, un marathon Buffy de l'animation japonaise, la première saison du plus grand succès français sur Netflix et des films d'amour. Vous êtes prêts à commencer?
Yep.
Yeah.
Alors, c'est parti. Commençons par un petit peu d'actu. Faisons un complément de ce que nous avions dit le mois dernier à propos de Disney+, qui a précisé l'arrivée de Star, son nouveau, ils disent un nouveau monde, sa nouvelle catégorie, nous on dira. Donc ça arrivera le 23 février de cette année et ça n'arrivera pas les mains vides, pas du tout. Il y aura 40 séries, 250 films. Et 4 séries originales. On a fait une petite liste rapide et non exhaustive de ce qui va arriver. Alors, il y aura par exemple la saga Alien, la saga Die Hard, la saga Le Labyrinthe, alors 5 films de La Planète des Singes, le classique de 68, le remake de 2001 et la dernière trilogie de Matt Reeves qui est sortie récemment. Il y aura aussi Titanic, 500 jours ensemble, et ça, j'en suis très content. Et Moulin Rouge aussi. Au niveau des séries, pareil, des gros poids lourds, Desperate Housewives, l'intégrale, Buffy contre les vampires, bon, Damien, ce sera l'occasion de t'y mettre, t'as plus d'excuses.
Mais si, j'ai une bonne excuse parce que je suis en train de regarder la liste et il y en a plein d'autres.
Et oui, il y aura Glee aussi. Grey's Anatomy, les 17 saisons, c'est ça?
Il y en a 12, non?
Alors, il y en a 15.
15, ouais. Ouais, ça reste déjà énorme, 15. L'intégrale de How I Met Your Mother, de Lost, Les Disparus, de New Girl, de Prison Break et de X-Files.
Et il y a Terra Nova.
Et c'est vrai.
Mais non, mais Terra Nova, ça n'a pas été annulé en plein milieu?
Ça a été annulé après la fin d'une saison avec un gros truc, un gros, qui allait annoncer, ouais, un truc de fou pour la saison d'après.
Un gros cliffhanger et il ne s'est jamais rien passé.
Dommage, ça arrive. On vous mettra le document officiel que Disney+ a sorti si ça vous intéresse pour voir vraiment l'intégralité du catalogue qui va arriver. Et moi, je me pose une petite question qu'on ne va pas forcément répondre là. C'est comment ça va se passer pour les autres plateformes qui ont,
les mêmes programmes.
Qui ont les mêmes programmes. Par exemple, Salto à Buffy, Netflix à Glee et New Girl. Enfin, est-ce qu'ils vont perdre tout ça ou est-ce qu'il y aura des doublons? On verra à ce moment-là, je pense.
Je pense que ça va rester en doublon. Et sinon, en fait, je me dis peut-être qu'on va arrêter d'être sur Salto. Enfin, il y a peut-être des trucs genre Buffy qui est sur Disney+. Enfin, il y a tellement de séries qui arrivent sur Disney+ que on se demande est-ce que ça a un intérêt de garder les autres plateformes, quoi.
C'est vrai.
Il y a The Office ou pas du coup dans la liste?
The Office est sur Salto.
Du coup, ça vaut le coup de garder Salto.
Oui, mais pas que. Enfin, on l'a déjà vu et là, c'est. On va pas garder Salto pour une série pour qu'on a peut-être envie de revoir de temps en temps.
Il y a Good Doctor aussi sur Salto.
C'est vrai.
Bon, enfin, il y a plein de choses bien sur Salto.
On va garder Salto encore un mois, un bon mois, mais après, on verra.
On verra. Le ou les hypitos du mois, Mathilde, tu en as un, Damien, tu en as un, et moi, je n'en ai pas, rien ne m'a emballé ce mois-ci, je suis un vieil aigri.
On a fait le strict inverse de la semaine du mois vois. Dernier ou pas? Non, Mathilde,
ou de la semaine dernière.
Oui, désolé.
Eh bien, Mathilde, je te laisse la parole, tu vas nous parler de Airstopper.
Ouais, mon hypito du mois, c'est l'annonce d'Alice Osman qu'elle a faite le 20 janvier sur son Instagram. Elle a annoncé qu'il y allait avoir une adaptation de son roman graphique Airstopper qui allait débarquer sur Netflix. C'est une super annonce. Je suis totalement fan de Airstopper. J'adore l'histoire de Nick et de Charlie. Ils sont trop mignons. Du coup, ce qu'on sait déjà sur cette série, c'est que ça sera une série en live action. Le scénario va être écrit par l'autrice, donc Alice Osman, et le réalisateur sera Eros Lynn, qui a travaillé sur Doctor Who, Daredevil, Sherlock, Black Mirror ou encore Is Dark Materials. Donc un mec qui a quand même qui a fait des trucs, quoi. Après, il n'a pas fait trop dans ce genre-là, tu me disais. Donc,
C'est juste, en voyant la liste, je ne connais pas ce monsieur du tout, mais je vois qu'il est plus sur de la SF ou des choses dark. Il n'est pas trop sur du contemporain, feel good, joli,
oui,
coloré.
Donc on verra ce que ça donne. Pour le moment, Netflix a annoncé qu'il allait avoir une saison de 8 épisodes. Chaque épisode fera 30 minutes. Le tournage devrait se faire au Royaume-Uni et c'est pas pour tout de suite parce qu'actuellement ils sont en train de caster les acteurs. Ça sera un casting hétéroclite comme les protagonistes du roman graphique. Les personnages de la série seront de genres et d'ethnies diverses. En gros, moi j'ai trop hâte de voir ça. Ça va être, enfin franchement, j'ai hâte. Et si vous connaissez pas Airstopper, vous pouvez découvrir. Les romans graphiques chez Hachette, je crois qu'il y a 3 tomes pour le moment, et le 4e est sorti, il est sorti en VO, donc il ne devrait pas tarder, je pense, à arriver chez nous dans quelques temps. Voilà.
D'accord, super, on regardera attentivement les news qui couleront, qui arriveront plus tôt. À ton tour, Damien, tu vas nous parler de Brooklyn Nine-Nine.
Oui, qui n'est pas vraiment très nouveau, mais du coup, il y a la saison 7 qui sort... ce février sur Netflix, et c'est très cool parce que la fin de la saison 6 était un peu frustrante, en mode on avait l'impression que l'intrigue principale allait se résoudre et en fait pas du tout, et du coup comme une fin de saison quoi, c'est normal, mais du coup c'est très cool de pouvoir retrouver tout le petit commissariat avec tous ces petits protagonistes très chouettes. Brooklyn Nine-Nine, si vous connaissez pas, c'est une série qui a commencé en 2013 et on suit un commissariat de quartier dans New York. À l'arrivée d'un nouveau commissaire, je pense que c'est la traduction, c'est leur chef en fait, et donc l'ancien qui était un peu véreux et qui laissait ses flics faire tout ce qu'il voulait se fait dégager, et un nouveau arrive qui est un petit peu plus strict, et du coup ça démarre comme ça, et c'est vraiment très très bien. Et vous avez que 6 saisons et bientôt 7 à rattraper.
Bon,
quand tu rattraperas Buffy. Et en parlant de Buffy, passons maintenant aux séries que l'on a vues ce mois-ci.
Mais pas tout le monde, si on veut étendre les titres.
Commençons donc par Buffy contre les vampires. Mathilde et moi avons regardé 4 saisons, de la 3 à la 7.
Ça fait 5.
Ça fait 5, ben oui, ben pardon. Un énorme marathon qui, quand on a calculé, on a dit que c'est complètement démesuré, puisqu'on a passé à peu près 3 jours et demi à regarder cette série. C'est très très long.
Exactement 82h50 et 50 minutes. Voilà.
Eh bien, Mathilde, dis-nous ce que tu as pensé. On va pas vous faire un retour saison par saison, mais plutôt un avis global sur la série. Alors je t'en prie, dis-nous ce que tu en as pensé.
Ouais, bah oui, on va pas faire un avis saison par saison parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode spécial Buffy, genre un hors-série.
Pourquoi pas ?
J'aimerais beaucoup, parce que j'ai plein de choses à dire, mais on va pas parler de Buffy jusqu'à ce soir. Du coup, pour résumer, j'ai adoré Buffy. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette série. Les premières saisons, c'était un peu compliqué parce que j'avais un peu de mal à mettre dedans. Et puis, à partir de la saison 4, c'est comme si y avait, la série se révélait, quoi. Il y avait un truc incroyable qui se passait. Et au final, je pense que c'est une des meilleures séries pour ados que j'ai jamais vues. C'est the best, la meilleure de toutes. Je pense qu'aucune série pour ados n'a raconté autant que Buffy, que ce soit Vampire Diaries, Teen Wolf, il y a quoi d'autre, Riverdale, oula, qui raconte rien du tout.
C'est dur de faire mieux.
Charme, exactement, qui est à peu près issu des mêmes années, mais ça racontait pas grand chose. Et au final, Buffy a réussi à faire un truc incroyable. C'était une série de divertissement et en même temps, elle arrivait à parler et envoyer des messages forts. Et elle envoyait des messages forts, des messages même philosophiques des fois, des choses vraiment super profondes. Et en même temps, elle arrivait à divertir. Et je trouve que c'est vraiment top. Et c'est ce qui fait que cette série est unique et que je pense qu'elle a autant de fans, même je ne sais pas combien de temps plus tard. Je sais pas combien de temps plus tard d'ailleurs.
Bah, ça s'est terminé en 2003, donc ça fait 17 ans. Et c'est pas pour rien qu'à mon avis, ils arrivent à faire perdurer la série en comics, parce qu'il y a une fanbase qui est très, très présente toujours. Et donc, sans eux, à mon avis, ça n'existerait plus du tout.
Et sinon, à partir du milieu de la saison 5, on découvre un changement de ton un peu au niveau de la série. La saison 6 et 7 est plus sombre. Elle aborde des thématiques un peu plus noires, enfin, ce que je peux dire.
Bah, c'est dans la saison 5 où il ressuscite un personnage important.
Non, c'est la 6.
C'est la 6. Bon,
bah. Mais du coup, dans la 5, ça commence déjà à se dégrader. Au milieu de la 5, il y a la mort d'un personnage important.
Oui, oui. Ah oui, cet épisode est bouleversant. Le ton change complètement. On s'éloigne totalement de la série pour les ados. On est sur un hyper cru. Il n'y a plus aucune musique. On est sur quelque chose de très premier degré.
C'est presque traumatisant.
C'est d'une violence. Il y a des longs plans séquences. Enfin, quand on découvre la mort de ce personnage, il y a un long plan séquence où on découvre, où il y a les pompiers qui arrivent, qui tentent de sauver. Enfin, je raconte pas trop, mais c'est d'une violence visuellement qui est très, très, très prenante.
Donc, à partir de ce moment-là, la suite, les autres saisons, la 6 et la 7, sont plus sombres. On aborde même le thème du deuil, du coup, la violence et le viol aussi, qui est abordé dans un épisode. La saison 7 apporte également une vision nouvelle à la série Buffy. Le personnage de Buffy ne lutte plus seulement avec sa petite bande d'amis, mais il regroupe une véritable armée de femmes qui sont fortes. Et je pense que cette saison a une véritable portée féministe. Tu disais qu'il y a un moment où...
Vers la fin, quand Buffy essaye de motiver ses troupes, fait un peu un discours de chef, comme un chef militaire qui motive ses troupes, en fait, et ben, elle tient un discours qui... je ne l'ai plus en tête, on vous le mettra...
Je pense qu'on en parlera dans l'épisode...
Oui, autrement. Où vraiment, elle dit... alors, je vais essayer de m'en rappeler du mieux possible. Elle dit que... jusqu'ici, il n'y avait qu'une tueuse, et là, ouvrez les guillemets, parce que quelques vieux hommes en ont décidé ainsi, il est temps que ça change. En gros, elle dit quelque chose comme ça, et évidemment, il y a un parallèle très, très clair avec, enfin moi en tout cas, je le perçois comme ça, avec la place des femmes dans la société. C'est quelques vieux hommes, il y a longtemps, qui ont décidé...
La force, en gros, de la tueuse était pour une personne, et là, en fait, elle veut que toutes les femmes deviennent fortes, en fait, si on peut dire ça comme ça. Et non, c'était vraiment un beau message. Après, au niveau du final, j'ai été un peu déçue. Ça m'a paru rapide, un peu bâclé et vraiment peu convaincant au final. Ça faisait 7 saisons qu'on regardait Buffy. Et l'arc se termine, mais moi, j'aurais aimé passer un peu plus de temps avec les différents héros. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment bim, c'est fini. Voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Alors que...
Mais c'est très brutal.
C'est un peu brutal, ouais.
C'est très brutal parce qu'ils finissent, ils accomplissent, le climax se termine. il s'éloigne un petit peu. Donc on est vraiment 30 secondes après que tout ça, ça soit terminé. Hop, on s'approche des personnages, ils disent des trucs, et voilà. Ouais, cut, final. Il n'y a même pas d'épilogue.
Et puis, il y a quand même des... Enfin, je vais pas spoiler qui, mais il y a des personnages qui sont morts durant cette bataille, si je peux dire. Mais personne, tout le monde, on a rien à faire, quoi. Personne ne pleure. Il fait, où est cette personne? Elle s'est battue, nanana. Ah, c'est bien. Et il passe à autre chose, quoi. Enfin, alors que c'est des persos qu'on suit depuis des saisons, quoi. Oui. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas leur rendre hommage. Hein. Enfin, c'était un peu bizarre. Enfin, après, comme disait Emilien, il y a des comics. Donc, moi, je pense que je vais poursuivre l'histoire grâce aux comics. Et puis aussi grâce à la nouvelle saga de comics qui est sortie. Enfin, ça sera un peu différent.
Il y a eu un reboot.
Il y a eu un reboot en comics qui est sorti et je pense que je vais me lancer dedans aussi. Mais en tout cas, Buffy, c'était vraiment bien. Et si je devais retenir juste quelques trucs, je dirais qu'il y a vraiment des épisodes mémorables. Enfin, comme celui de la saison 5, où on disait le décès d'un personnage important. Il y a également un épisode où tous les personnages arrêtent de parler.
Ah oui, mais oui, pareil. Mais vraiment, et on pourrait croire que c'est des épisodes un peu artificiels, mais enfin parce que toutes les séries font ce genre de truc. L'épisode muet, l'épisode musical. Par exemple, il y a des épisodes avec des zombies. Bon, dans Buffy, il y a toujours des zombies, mais en tout cas, dans Buffy, ces épisodes spéciaux sont jamais gratuits. Il y a toujours une raison qui fait que y a ce petit artifice en plus.
Ouais,
c'est très bien fait.
L'épisode où les personnages n'ont plus de voix s'appelle un silence de mort, donc il est dans la saison 4. Sinon, il y a effectivement l'épisode où il y a quelqu'un qui décède dans la saison 5. Il y a que le spectacle commence dans la saison 6, l'épisode 7, où là, c'est un épisode musical. Et je pense clairement que c'est le meilleur épisode musical que j'ai jamais vu. Enfin, c'est pas juste la musique, ils se mettent pas juste à chanter comme ça parce qu'il y a il y a une raison de pourquoi ils se mettent à chanter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, il y a Buffy qui dévoile un secret important grâce à la musique. Comme si en gros, la musique servait à révéler ce qu'ils avaient au plus profond d'eux. En fait, c'est ça un peu cet épisode, chacun d'eux dit la vérité. Et c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, j'aimerais bien mettre un petit bout de musique. J'ai le droit.
On peut mettre à la fin, on peut se quitter dessus.
Oui, on va faire ça. Et sinon, au niveau des épisodes, il y en a aussi un où Buffy, qui s'appelle À la dérive dans la saison 6, où Buffy pense être folle dans un hôpital psychiatrique. Ça aussi, c'est un épisode qui est fait pas mal dans d'autres séries, mais qui est vraiment
très bien. Ah, mais j'aime pas ces épisodes-là. Ça m'énerve, ces épisodes-là m'énervent.
Et sinon, ce que je retiendrai de Buffy particulièrement, c'est quand même le personnage de Spike.
Oh, c'est le meilleur personnage de la série.
Qui est vraiment un de mes personnages préférés. Et je conclurai, parce qu'il faut conclure, ça fait je ne sais pas combien de minutes qu'on parle de Buffy. Je conclurai sur une phrase qu'a dit Sarah Michelle Gellar. Le 19 janvier sur son Insta, en fait, parce que le 19 janvier, ça aurait été l'anniversaire de Buffy Summers. Et pour parler d'elle et pour parler du personnage de Buffy, elle a dit « Elle m'a enseigné que la chose la plus difficile au monde, c'était de vivre dedans. » Et en lisant cette citation, je pense que ça résume totalement ce que m'a apporté cette série. Malgré le fait que on est plus tout jeune, on n'a pas l'âge, on n'était pas au lycée quand on l'a regardé, mais elle nous a vraiment apporté quelque chose, je pense. Life's a show and we all play our parts. And when the music starts, we open up our hearts. It's all right if something's come out wrong. We'll sing a happy song, and you can sing along. Where there's life, there's hope. Every day's a gift. Wishes can come true. It's so hard. You work so hard all day to be like other girls, to fit in this glittering world. Don't give me.
Voilà pour ce long retour sur Buffy contre les vampires qu'on a bien aimé, et on démord pas que Damien, il faut que tu regardes cette série.
Ah mais du coup la fin elle a l'air moins bien.
Non, juste le dernier épisode.
C'est, et vraiment c'est même pas le dernier épisode, c'est les cinq dernières minutes.
Ouais. D'accord.
C'est comme s'ils étaient bridés par leur format et du coup ils ont pas pu épiloguer comme ça aurait dû l'être.
Après t'auras sûrement plus de mal à regarder la saison 1 que la dernière saison. Enfin la saison 1, c'est faut y aller quoi. Enfin c'est un peu comme dans tout, c'est comme un peu, je trouve que Doctor Who ça a le même souci. C'est que bah, c'est, ça a un peu vieilli, c'est un peu...
Il y a une différence. Enfin, pour moi, ce n'est pas tout à fait les mêmes problèmes. C'est que Buffy, c'est plus que c'est très marqué par son époque, c'est très années 90. Mais comme tous les effets sont physiques, c'est du latex, c'est du costume, visuellement, ça vieillit pas si mal. Alors que Doctor Who, c'est parce qu'ils ont essayé de faire de la 3D, et la 3D, c'est des débuts 2000, c'est horrible. C'est à la fin de la série de Buffy où il y a de la 3D.
Ça fait kitsch un peu Doctor Who, ça a un petit côté pas si grave au final.
Enfin, oui, après, c'est vrai, le ton est différent.
Je trouve que le début de Buffy, franchement, moi, j'ai vraiment commencé à apprécier la série, vraiment, mais à me dire, ouais, c'est une super série, à la saison 4. Mais je crois qu'aussi, c'est parce que les trois premières saisons, il y a quand même Angèle tout le temps. Et moi, j'ai clairement un problème avec ce perso. Moi, j'avais envie de le zigouiller, le type.
Tu nous diras ce que t'en penses.
Il y a d'ailleurs une série Angèle.
Je ne regarderai
pas. Ils ont fait une série que sur le perso que vous aimez pas.
Que sur le perso qu'on n'aime pas. Et il y a Spike qui est dans la saison 5 d'Angèle, qui se passe donc après Buffy. Donc moi, je me suis dit, oh, j'aimerais bien regarder parce qu'il y a Spike. Mais en fait, non, je ne supporterai pas de...
Pour un épisode...
Non, il est là toute la saison.
Mais je ne supporterai pas de regarder une série où je vois la tête d'Angèle dans chaque épisode.
Il est déprimant, en fait. Il te met une drasse dès que tu le vois. Il est terrible.
Il est horrible.
Tu le vois arriver dans la pièce avec son air déprimé, tu vois, oh, c'est parti.
Et ce n'est pas un problème de l'acteur, parce que l'acteur joue dans Bones. Et je n'ai jamais eu de problème à regarder Bones.
Il
joue qui dans Bones?
Il joue le copain de Bones.
Ah oui. Donc quoi c'est... Mais il est super vieux, le copain de Bones, dans Bones.
Quoi? Ça se fait plus tard, hein, la série Bones, c'est pas juste après Buffy.
Oui, c'est vrai.
Mais du coup, non, c'est pas l'acteur, c'est juste son rôle, quoi. Angèle est un personnage chiant. Voilà.
C'est exactement le mot.
Clôturons
une vraie. Enfin, pour de bon, cette fois. Et passons maintenant. À une série qui a fait beaucoup parler ce mois-ci, les chroniques de Bridgerton sur Netflix. Il n'y a qu'une saison, évidemment, c'est la première. Et c'est Mathilde qui a regardé ça. Tu vas nous en parler maintenant.
Alors, la chronique des Bridgerton, une série, donc une saison plutôt, une saison, 8 épisodes d'environ 1 heure. Le synopsis, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire des 8 enfants de la fratrie des Bridgerton dans le Londres de 1813. Chacun d'eux cherche le bonheur et l'amour, surtout Daphné, qui fait ses débuts dans la haute société. En gros, Daphné entre dans la haute société et le but, c'est qu'elle se trouve un mari, comme toute bonne femme de l'époque. Sauf qu'elle galère un peu à se trouver un mari. Parce que pour diverses raisons, et en plus elle a un vieux prétendant qui lui court après, donc elle n'est pas très motivée. Et au final, elle rencontre le duc de Hastings, qui est un ami de son frère aîné. Et ensemble, ils montent un petit plan pour que Daphné alpague les meilleures parties de... de Londres. Parce que c'est toujours en se faisant passer pour l'ami proche du comte. Du duc, par contre, c'est par contre du duc, et bah elle pense attirer des parties encore plus riches et plus prestigieux, et peut-être même un prince, qui sait, peut-être. Donc voilà, c'est les chroniques de Bridgerton. C'est une adaptation, en gros, c'est adapté de la série littéraire du même nom, qui est écrite par Julia Quinn. Et voilà, alors oui, ça a beaucoup fait parler. Pourquoi ? Je ne sais pas trop.
Enfin, Netflix l'a vendu peut-être de manière très hasardeuse comme un mélange entre Gossip Girl et... ou alors non, ils ont dit que c'était Gossip Girl...
C'est le Gossip Girl dans Londres victorien.
Voilà.
Non mais oui, et c'est sûrement aussi parce que c'est quand même une série produite par Shonda Rhimes. La Shondaland. comme ils disent. Donc, par la créatrice de Grey Anatomy, entre autres. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça a bien marché. Mais en vrai, il n'y a aucun rapport entre Gossip Girl et cette série.
Hein, bah si, il y a une personne inconnue qui tient chronique et qui raconte tous les potins de la haute.
Oui, mais c'est pas assez mis en avant et c'est pas vraiment le truc, l'intrigue principale de l'histoire, c'est pas ça, quoi. Enfin,
ouais, voilà. Et puis juste dit comme ça fait pas tant rêver non plus, quoi. Enfin, après, The Gossip Girl m'ennuyait aussi, donc du coup, ça me surprend pas d'être peu emballé par résumé, mais...
Mais après, c'est vrai que moi, j'ai regardé les 8 épisodes, il y a 8 épisodes, et je les ai regardés en 2 jours, donc oui,
Toi, c'est quand même court, au final, du coup. Je pensais que c'était un plus long truc.
Non, c'est court, mais toutes les séries Netflix sont courtes, mais c'est beaucoup trop long, hein. Enfin, 8 épisodes, pour le coup, c'est beaucoup trop long, parce que ça ne raconte pas énormément de choses. On suit l'histoire entre Daphné et le duc d'Hastings. Déjà, l'histoire est prévisible. On sait déjà comment ça va se finir. En plus,
ils vont finir ensemble.
Tu crois? Mais c'est surtout que ça dure 3 plombes. Et c'est très compliqué. Je sais pas, ça m'a pas... Moi, j'avais envie de regarder en me disant « Ah, peut-être que dans l'épisode d'après, on aura un truc qui... Ah, ça va peut-être aller quelque part. » Mais non, ça va nulle part. Jamais. Et cette série a eu un grand succès grâce au duc de Hastings, en fait. L'acteur qui joue le duc qui s'appelle, alors c'est compliqué, je pense que c'est Régent Page, mais je suis pas sûre, donc ne m'en voulez pas si c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Mais en tout cas, cet acteur a participé au succès de la série parce que il est beau, clairement, on peut pas le nier, c'est un bel homme. Mais la question, c'est: est-ce qu'on peut juger la qualité d'une série sur la beauté d'un acteur? Et en plus de ça, bien évidemment, il passe beaucoup de temps torse nu, voire nu, car il y a de nombreuses, mais vraiment nombreuses scènes de sexe dans la série. Mais tellement qu'il y a des moments, genre, je crois que c'est dans l'épisode 6 principalement, où je me suis demandé, mais c'est un porno ou pas? D'ailleurs, cette question, il n'y a pas que moi qui me l'ai supposée.
Cette question, elle a été vite répondue.
Parce que... Apparemment, des scènes de cette série se sont retrouvées sur sur des sites porno, quoi.
T'as l'air bien renseigné.
Non, j'ai lu un article. Mais tout ça, enfin, et ça servait à rien. Enfin, ça avait pas d'impact. Enfin, si. Enfin, je comprends bien que ça avait un certain impact parce que du coup, c'est peut-être un peu un spoil, mais le duc de Hastings dit à Daphné qu'il peut pas avoir d'enfant. Et en fait, c'est pas qu'il peut pas avoir d'enfant, c'est qu'il veut pas. Et donc, à chaque fois qu'ils couchent ensemble. Et
Mais il se retire.
Voilà, il se retire, donc du coup, ils n'ont pas d'enfant. Et elle comprend pas parce qu'elle a aucune notion de la sexualité. Et donc, elle comprend pas pourquoi il peut pas avoir d'enfant jusqu'au jour où elle voit se retirer, elle voit qu'il a mis sa semence dans un mouchoir, si je peux dire, et elle ouvre le mouchoir et elle fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, elle y connaît rien, vraiment, elle sait pas ce que c'est. Et jusqu'au jour où elle le bloque dans un lit, enfin, ils couchent ensemble, et elle fait tout pour pas qu'il se retire. Et lui, il pète un plomb, parce que il dit « Quoi ? Mais je voulais pas d'enfant, nanana !» Et elle dit « Vous m'avez menti, c'est horrible !» Enfin, mais je suis pas sûre que toutes ces scènes de sexe servent ce propos.
Bah du coup, ça parle quand même d'éducation sexuelle, ça a au moins cet intérêt.
Pour les gens assez basique.
Oui, mais ils en parlent jamais, en fait. Enfin, ils nous le montrent, ils nous montrent qu'elle cherche à comprendre ce qui se passe.
Mais il comprend pas.
Mais à aucun moment on nous dit « Ah, mais en fait, c'est... Attends, je vais t'expliquer. » Enfin, à aucun moment, il y a quelqu'un qui prend la parole pour lui dire... Parce qu'à l'époque, ils n'en parlent pas, quoi. Non, c'est un peu...
C'est pas un peu cliché, le côté « À l'époque, ils n'en parlent pas. »
Oui, en plus, j'en sais rien, tu vois. Je vivais pas au XVIIe siècle.
Mais est-ce qu'il y a quand même des choses positives à retenir de cette série? Parce que là, on est sur un bilan largement négatif.
Oui, non, il y a des choses positives à retenir. Les costumes, les décors, ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Moi, j'adore les séries historiques en plus, donc pour le coup, ça, c'est très bien. Et la BO, la bande son. Oui, la bande son.
La BO, c'est bande originale, voilà, mais ça marche aussi.
La BO est vraiment... Trop bien. Ils ont réadapté des musiques modernes, si je peux dire.
Oui.
En instrumental, par exemple, il y a la chanson Girls Like You de Maroon 5 qui a été interprétée au violon. Mais c'est trop bien. Moi, ça fait 2 jours que je m'écoute parce que je me suis rappelé de ça et je me suis dit, oh oui, la musique était trop bien. Du coup, je m'écoute souvent la bonne son. Mais bon, c'est pas tip top quand même. Après, Netflix, vu le succès de la série, Netflix a déjà annoncé une saison 2. Donc, et apparemment, la saison 2, il laisserait le Duc et Daphné de côté pour privilégier l'histoire du frère aîné. Donc, parce qu'en fait, ils sont 8 frères et sœurs. Si j'ai, enfin, voilà. Ils parleraient plus.
8 saisons en perspective.
Oula. Non, parce que je crois pas qu'il y ait autant de... Enfin, il faudrait que je regarde le nombre de bouquins, peut-être. Mais en gros, là, il parlerait du frère aîné. Après, je pense qu'en livre, ça doit être pas mal. Enfin, c'est un peu ce que je disais, je te racontais hier, Emilien. C'est un livre un peu... je pense que c'est les... Je pense que toutes les scènes de sexe, par exemple, qui sont dans la série, sont dans le bouquin. Enfin, c'est un peu un livre... comment je pourrais dire, coquin. À l'eau de rose, coquin, tu vois. Peut-être que c'est ça. Après, je ne l'ai pas lu. Peut-être que je me trompe totalement et que je suis totalement à côté de la plaque. Mais,
on vous dira.
On verra. Peut-être. Mais il y aurait une saison 2, donc voilà. Mais c'est vraiment... Je sais même pas si... Enfin, je regarderai peut-être pour les décors, la musique. Peut-être qu'ils mettront d'autres musiques sympas. Mais c'est pas top, quoi. Je m'attendais à mieux. Je suis déçue.
D'accord, merci beaucoup.
Tu as envie de regarder, Damien ?
Très peu.
Ok. C'était le but.
Mathilde, tu as regardé aussi...
C'est toi qui as regardé des séries.
J'en ai parlé hier avec Emilien et on disait que si j'étais pas là, il n'y aurait pas de podcast.
Ou il durerait 20 minutes. tu as regardé donc une série qui est arrivée sur Netflix ce mois-ci. Il s'agit de Dawson. Et tu as déjà regardé toute la première saison.
Ah oui, mais tu as regardé de quelques épisodes aussi. Donc tu pourras peut-être
regarder ça de loin.
Donner
mais
un avis.
Pas trop la première.
Alors, Dawson, c'est une série qui date de 1998.
Ça se sent.
Oui, ça se sent. La première saison fait 13 épisodes. Et le synopsis, on peut dire, donc on suit Dawson, qui est un adolescent au lycée, qui découvre les aléas de l'adolescence, accompagné de Joey et Pacey, ses amis de toujours. Donc voilà, ça c'est le petit synopsis. Alors qu'est-ce que je pense de Dawson ? Alors clairement, la saison 1, il fallait s'accrocher. Moi je suis quelqu'un qui comment dire...
Je suis persévérante.
Voilà, je suis persévérante, je m'accroche parce que des fois je me dis peut-être que la saison 1 c'est pas ça, mais allez, continue. Et j'ai presque fini la saison 2 et ça s'améliore dans la 2, donc déjà c'est positif. Mais la saison 1 c'était vraiment compliqué. Pourquoi ? À cause de Dawson. Clairement, le personnage de Dawson, déjà il a pas 15 ans, faut arrêter le consentement.
Ça c'est la première chose que je me suis dit quand je t'ai vu regarder, je fais mais ces acteurs ont 25 ans, j'y crois pas du tout, ils ont pas 15 ans, pas à aucune seconde.
Bah, je trouve que Joey encore ça passe, Pacey ça peut passer, mais Dawson clairement on n'y est pas. On a l'impression qu'il a déjà 30 ans, tu te demandes ce qu'il fout avec cette bande de gamins, très bizarre. Mais par contre, Dawson, dans sa tête, il a vraiment 15 ans. Enfin, le protagoniste, pas l'acteur, bien évidemment. Il a vraiment 15 ans. Il est insupportable. Il est égoïste. Il est narcissique. Il est... Je sais pas. C'est le pire. C'est sûrement le pire ami de l'univers. Clairement.
Il est un peu aigri quand même.
Il est aigri aussi. Le seul truc positif, si je peux dire, c'est sa passion pour le cinéma. Parce que du coup, la série est pleine d'échanges sur le cinéma, sur les réalisateurs. Ils parlent de ce qu'ils pensent du cinéma. Et toute cette partie sur leur passion sur le cinéma est très intelligente. Et je trouve ça vraiment... c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de séries qui abordent ce thème. Donc ça, j'aime bien en fait la partie sur la passion de Dawson. Mais à côté de ça, le personnage en lui-même... Oh, mon Dieu, quoi. Vraiment. Alors, il y a une nouvelle qui arrive... Ah, elle est blonde, elle est belle, elle vient de New York. Ah, il faut que je tombe amoureux d'elle. Oh là là. Et la pauvre Joey qui l'aime depuis tout ce temps, qui est devant lui et il la voit pas. Et oh là là. Et même la saison 1, pour le coup, elle est pas très bonne pour les autres personnages non plus. Genre Pacey. Non, mais au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce branleur, quoi ? Le gamin, il a 15 ans, il drague sa prof, il finit par coucher avec elle. Et là, tu te dis, non, mais ça va pas. Ça va pas. Très mauvaise image de Pacey au début, alors que au final, dès le début
il
de la
rattrape.
Saison 2, Pacey devient, je pense, un de mes personnages préférés de Dawson. Donc, comme quoi, la saison 1, elle était pas ouf, on l'oublie, on passe à autre chose. Mais malheureusement, je pense que, comme dit Anaïs et Marie dans le podcast de la Pic TV, je pense que peut-être que Dawson serait sûrement mieux sans Dawson. C'est un fait.
On va arrêter de parler de Dawson en restant sur ces belles paroles de la Pic TV et on va passer ensuite à une autre série Netflix que Mathilde a regardée encore une fois. Il s'agit des nouvelles aventures de Sabrina. Je ne sais plus laquelle saison c'était, mais je sais que c'était la dernière. Et à toi de nous en dire un peu plus.
Il me semble que... Enfin, j'ai pas tout compris. Enfin, il y a eu deux saisons. Il y a eu deux vraies saisons dans Sabrina, officiellement. Donc, il me semble que c'était la saison 2, partie B. Mais en gros... Enfin, c'est un peu compliqué.
Ça, c'est
en
les découpages cas, à la Netflix.
En tout cas, c'était les 8 derniers épisodes de la série. Donc, c'est fini. Sabrina, les nouvelles aventures, c'est fini. Dans cette dernière saison, on retrouve donc Sabrina, qui doit affronter 8 abominations. 8 abominations. Donc, 8 épisodes... 8 abominations, une par épisode, voilà, ça vous avez un peu le décor comme ça. Et direct, la saison, elle commence sous tension. Direct, c'est en mode apocalyptique, c'est la fin du monde, voilà, on y est. Hein. Il n'y a pas de
d'impro.
Ouais, non, c'est comme ça.
En même temps, c'est pas une vraie saison, mais la seconde partie. Du coup, c'est un peu normal qu'ils enchaînent directement sur la suite de
oui,
ce
oui,
qui s'est passé avant.
C'est ça. Mmh. Mais du coup, enfin, moi, je suis toujours un peu déçue de ce découpage. En fait, ils découpent les saisons pour
augmenter leur nombre de productions par an, en fait.
Voilà, pour augmenter leur nombre de productions par an et pour créer du suspense aussi. Mais au final, ça casse un peu le rythme, quoi. Ouais. Là, on s'est retrouvés à 100 à l'heure, alors que moi, j'ai pas re-regardé les 8 premiers épisodes avant. Enfin, non, c'était pas. Pas le but. En tout cas, Sabrina, elle se sent un petit peu seule. Tous ses copains sont en couple, sauf elle. C'est le ballot. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ces derniers épisodes ça m'a pas vraiment marqué. Je les ai regardés, mais un peu parce que bah voilà, il fallait les regarder. J'allais pas rester sur ma faim, si je peux dire.
Ça m'a pas non plus tenté que ça, et je crois que j'ai vu les trois premières, enfin les deux et demi.
Bah, c'est ça.
Une et demi première saison.
Et bah, je pense que la première saison est la mieux. Clairement, ils auraient dû s'arrêter là. Enfin, moi, quand j'ai commencé à regarder Sabrina au début, je me suis dit,
c'est vraiment trop bien le début.
C'est trop bien le début. C'était sombre, c'était quelque chose qu'on avait vraiment presque jamais vu en young adult, un peu horrifique par moment aussi. Enfin, young adult en série ado. Et c'était un peu horrifique et tout. Je trouvais ça vraiment. L'ambiance était top, vraiment trop bien. Et puis, je sais pas, ça a un peu dérivé. Ça a fait un peu comme Riverdale, quoi. Fiuhou! Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai regardé parce que bah, je me suis dit, allez, il reste 8 épisodes, il faut bien finir cette série, mais j'aurais pu m'en passer. Et au final, même le final n'est pas terrible, en fait. Moi, j'ai pas du tout aimé ce qu'il raconte. Vous spoiler, mais j'ai pas aimé, clairement.
Mais t'as pas aimé genre l'histoire ou la morale du truc?
Ah non, la morale, l'histoire, enfin... Ça m'a pas. J'ai vu qu'il y avait des gens qui pleuraient quoi à la fin de Sabrina sur les réseaux sociaux. Moi j'étais. Ou peut-être que j'étais pas assez dans le truc, mais non, j'étais en mode ah ok. Ouais, bah si vous voulez. Le seul point que je regrette, c'est que j'avais bien aimé le casting. Je trouvais que le casting fonctionnait bien ensemble et les acteurs étaient vraiment cool. Surtout l'actrice qui joue Sabrina, donc Kiernan Shipka. J'arrive pas à le dire!
Il n'y a pas de S, donc Shipka, normalement.
Ouais, Shipka. Donc elle était vraiment trop bien. On l'avait déjà vue dans Mad Men.
Oui.
Elle jouait la fille de Don Draper dans Mad Men. Et,
je me dis bien, je l'avais déjà vue quelque part, mais je n'arrivais pas à me souvenir d'où. Et je me disais, tiens, c'est bizarre qu'elle soit sortie de nulle part.
Et elle n'est pas sortie de nulle part. Et sinon, dans ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les petits moments musicaux dans la série. Bon, par contre, c'est pas comme dans Buffy. Il y a des moments musicaux dans la série parce que les acteurs chantent et adorent la musique. Donc, ils décident eux-mêmes. On a l'impression que c'est genre eux qui disent « Hey, je veux envie de chanter, mettez-moi un petit moment musical. » Mais moi, j'aime bien. J'aime bien.
Bah, c'est bien.
L'acteur d'Hervé, je crois, il a un groupe de musique. Ben voilà.
Oui, c'est toi qui m'as dit ça. Hein.
Ouais, je crois.
Je ne suis pas particulièrement...
Donc Sabrina, c'est fini, c'est dommage. Mais je pense que peut-être qu'en saison d'Halloween prochaine, je me regarderai la saison 1 que j'avais bien aimée. Mais la saison 2, là, moi, j'ai pas accroché.
Merci beaucoup. Alors, dans un autre genre... Non, dans un genre à peu près similaire, c'est plutôt ça que je devais dire... Tu as, Mathilde, encore regardé sur Netflix la première saison de Destin, la saga Wings. J'ai un peu regardé la fin, donc je pourrais raconter 2-3 trucs aussi dessus. Et on va écouter la bande-annonce.
La magie prend sa source au sein même de la nature.
Wow, toi, t'es complètement largué. T'es sûrement une fée.
Oui, je suis une fée.
En première année, on se focalise sur l'élément qui vous a été donné à la naissance.
C'est un truc que tu vas apprendre dès le premier cours. La magie des fées.
Un truc de dingue.
Est reliée aux émotions. L'amour, la haine, la peur. Mais plus forte est l'émotion, plus forte sera la magie.
Aujourd'hui, tu vas travailler ta magie.
Tu te concentres, tu apprends. Tu grandis. Et un jour, tu auras les réponses.
Tu sais pourquoi la barrière existe?
Pour protéger l'école des brûlés.
Estime-toi heureux de n'avoir jamais vu de brûlés.
Bloom! C'est moi qu'ils veulent.
Bloom a le potentiel pour devenir l'une des fées les plus puissantes que l'autre monde ait jamais connue.
Moi, je suis pas comme vous toutes. J'ai pas grandi ici.
La magie peut être dangereuse. Tu as pu t'en rendre compte.
Parce que quelqu'un lui a menti.
Cet endroit est plus sombre que ce que Deling doit faire croire. Toi, t'as besoin de réponses.
Fais attention avec qui tu traînes. Une guerre se profile à l'horizon.
Nous sommes assez entraînés pour faire face.
On peut aider notre ami. Ils ont le droit de savoir qui je suis et ce qui est arrivé à leur vraie fille.
Peu importe ce que tu projettes de faire, je suis de ton côté.
J'ai toujours su que tu suivrais pas le même chemin que les autres.
J'ai hâte de voir qui tu seras devenu.
Juste un peu dépité de pas avoir vu la moindre paire d'ailes.
C'était la bande-annonce donc de Destin, la saga Wings. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont changé le nom. Pourquoi ils n'appellent pas Wings?
Bah parce que je crois qu'ils vont faire plusieurs trucs autour peut-être de l'univers.
Ah, peut-être que c'est Fate. Fate Destin va changer, après ce sera Rise pour la saison 3, parce qu'on se relève
là,
toujours.
Ils sont dans Fate the Wings Saga.
Non, à toi Mathilde, du coup, de nous parler un petit peu plus de cette nouvelle série.
Alors, la saga Wings, c'est une adaptation en prise de vue réelle de la série d'animation italienne Le Winx Club, signée Ininio Strasfi, je sais pas trop, on va dire que c'est ça. Pour faire court, on y suit 5 fées, Bloom, Musa, Stella, Aisha et Terra, qui fréquentent l'Institut d'Alphéa, qui est un pensionnat situé dans un autre monde, un pensionnat pour les fées et les spécialistes. Je crois.
C'est les garçons, ils s'appellent les spécialistes.
Non, c'est pas les garçons. Ah. Parce qu'il y a des garçons fées. On se calme tout de suite.
C'est encore autre chose, du coup.
Ils ont des épées.
Ouais, je crois qu'ils protègent. En fait, c'est des combattants. En fait, t'as les fées qui sont magiques et t'as les combattants à côté.
Qui sont pas magiques.
Qui sont pas magiques. Ils ont pas de magie, les. Comment je les appelais?
Les survivants. Non, les spécialistes.
Les spécialistes. Peut-être que c'est même pas ça leur nom.
J'espère pour eux, quand même.
Je sais plus. Du coup, on suit ces 5 filles qui vivent ensemble parce qu'elles sont en coloc. Elles ont été mises ensemble dans un appartement dans
le pensionnat.
Dans le pensionnat. voilà. Et on va suivre du coup leur évolution, comment elles apprennent à maîtriser leur pouvoir, à surmonter leur rivalité, parce qu'elles ne s'entendent pas toujours bien. Et elles vont devoir affronter des monstres qu'on appelle les brûlés. Bon, voilà. Dit comme ça, je ne sais pas si ça vous tente. Moi, ça ne me tente pas trop. Et pourtant, je trouve que la saga Winx est la grande surprise du mois. En gros, j'avais peur que ça soit encore une série pour ados. Bon, ça, il y en a plein, tu me diras, ça change pas, c'est une série pour ados, c'est clair. Mais j'avais surtout peur que la saison 1 soit une saison d'introduction, genre, et qu'elle raconte absolument rien. Et là, surprise, la saison 1 a un début, un milieu, une fin, des péripéties, des évolutions de personnages. C'est un arc narratif, et ça, c'est vraiment bien, Netflix. Bravo!
Continuez comme ça, les gars.
Non, après, moi, j'ai jamais vraiment regardé le Winx Club, donc je sais pas si y a vraiment des différences entre cette adaptation et le Winx Club. Emilia avait cru me dire que oui.
Bah, dans le ton, on est sur le jour et la nuit, quoi. C'est ultra girly, le dessin animé.
Ouais.
C'est des faits, c'est fait pour vendre des jouets, c'est... On n'est pas du tout sur le même ton.
Elles ont des ailes.
Elles ont des ailes, elles ont des pouvoirs avec des paillettes. Enfin, c'est fait pour les enfants, clairement. Enfin, et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne adaptation de ce point de vue-là, d'avoir revisité complètement et pas de s'être contenté d'une adaptation kitsch, parce que ce serait devenu trop kitsch.
Oui, et puis après, j'ai vu qu'il y avait aussi des petits changements au niveau des personnages. Par exemple, Stella, dans le Winx Club, était adorable. Je crois que Stella, j'ai vu des commentaires, c'était une des plus gentilles fées du monde. Alors que dans notre version, Stella est un petit peu, pas méchante, mais un peu en sale caractère, quoi. Bon, un petit peu méchante.
C'est un peu la peste.
Ouais, c'est un peu la peste du groupe. Quoi. Mais bon. Moi, ça me gêne pas plus que ça, vu que j'étais pas attachée à ces personnages à la base. Je trouve que ça fonctionne bien, l'histoire. J'aime bien ce côté cette ambiance sombre, parfois même un peu horrifique aussi, quand il y a les monstres, les brûlés qui apparaissent. Enfin, il y a vraiment des scènes où j'étais presque à me cacher les yeux. Non, je veux pas les voir. Ils sont crados, ils sont pas beaux. Et le plus important, du coup, 6 épisodes. 6 épisodes, c'est bien, c'est un bon nombre, c'est pas trop. On a assez de contenu pour nous faire découvrir l'univers et nous mettre en place des vrais,
des enjeux
résolutions. Et une résolution finale qui ouvre quand même sur un cliffhanger important. Et on se demande vraiment ce que vont devenir nos héroïnes. Et en plus de ça, il n'y a pas de temps ennuyeux. Il n'y a pas d'épisode vide où il flâne, il ne nous raconte rien. Vraiment, je trouve que ces 6 épisodes de 55 minutes, c'est vraiment... c'est le bon format.
Pour ce qu'ils ont à raconter, 6 épisodes, c'est ce qu'il fallait.
Ouais.
Plus, comme tu dis, ça aurait été longuet ou avec du remplissage. Là, c'est très bien.
Après, visuellement, j'ai été plutôt étonnée, par exemple, par le design des brûlés, donc qui sont les monstres. Ils m'ont fait peur. Ils sont brûlés, oui. Ils sont brûlés. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Même la façon dont les filles utilisent leur pouvoir. Donc, chaque fée a un élément. Donc, par exemple, Bloom, elle, c'est le feu. Musa, c'est l'esprit. C'est une fée de l'esprit, je crois.
Elle est dans cette série, on dit qu'elle est empathique.
Oui, mais c'est ça, c'est une fée de l'esprit. Oui. Stella, c'est la lumière. Alja, c'est l'eau, il me semble. Et Terra, du coup, la terre, les plantes et tout ce qui est nature. Et j'ai bien aimé la façon dont Aisha gère l'eau. On la voit souvent utiliser l'eau, donc c'est plutôt bien fait. Même la façon dont Bloom utilise ses flammes, moi j'ai bien aimé ça.
Être un peu mauvaise langue et tatillant en disant qu'ils ont acheté des packs After Effects et que du coup ils mettent les effets. Mais,
oui.
mais ça rend très bien, c'est très beau. Je taquine.
Moi je trouve que franchement, comparé à d'autres séries dont Shadowhunter, quand même,
oui.
Moi j'adore Shadowhunter, mais c'est vraiment kitsch Shadowhunter. Enfin, faut pas.
Mais,
mais c'est fait pour.
Il y a une scène dans Winx qui se rapproche de Shadowhunter.
À la fin, on ne va pas vous spoiler ce qui se passe, mais à la fin, il y a une transformation de Bloom. Enfin, vous verrez. Hein. Et dans le dernier épisode. Et cette transformation a été un peu kitsch. Mais moi, ça m'a paru acceptable par rapport à la qualité du reste de la série. Enfin, après, je
pense fait un peu sortir sur le moment, mais bon.
Ouais, mais après, je pense que quand t'es dans une série comme ça, si t'acceptes pas le kitsch, ils ont pas les moyens de faire des choses aussi cool qu'au cinéma, quoi. Je pense qu'ils ont pas le même budget, pour le coup.
Mais c'est produit par qui, du coup ? C'est Netflix ou c'est...
Il me semble que c'est une série originale Netflix.
Donc ils ont quand même un petit peu de sous, normalement.
Ouais, mais ils ont fait 6... Franchement, les effets pour les 5 premiers épisodes sont vraiment... Moi, je trouve qu'ils sont nickels.
Ils ont mis tout le budget dans les 5 premiers épisodes.
J'aurais tendance à dire qu'en fait, ils ont fait ça, et pour le moment un peu fatidique, ils n'avaient plus de sous.
Je suis pas certain que ça soit une histoire d'argent, peut-être un peu, mais c'est plus... moi, j'ai vu plus une tentative de reproduire assez fidèlement les transformations des fées dans le dessin animé.
Oui.
Et sauf que du coup, on est sur deux tons qui sont très différents et un truc. Vous connaissez ça plus que moi. Les animés japonais, c'est très difficile à adapter visuellement. Et là, on est un peu sur les mêmes problématiques. Et du coup, ça fait quelque chose de très artificiel et d'un peu raté. Mais bon.
Après, des fois, c'est géré tout le long comme ça, c'est artificiel tout le long, et du coup, tu t'y fais et ça passe. Mais c'est vrai que si là, il n'y a qu'un seul truc où il y a cet effet.
Mais c'est peut-être aussi parce que, comment dire, c'est aussi la première, on va dire, transformation.
Oui.
Donc, on n'est pas habitué, on la voit, on se dit, ah bah, c'est kitsch. Mais c'est ce que je dis, dans Shadowhunter, la série est kitsch, et la série, ça pose pas de problème, parce qu'on s'y habitue, et on sait que c'est comme ça, et moi, j'ai jamais... Au contraire, je trouve que ça donne même une espèce de patte à la série.
Ah oui, oui.
Donc moi, ça me gêne pas plus que ça, mais c'est sûr que le jour où il faut adapter, enfin, ça a peut-être sûrement été fait, mais adapter les transformations de Sailor Moon, c'est kif-kif, quoi, enfin, c'est le même problème, quoi.
C'est difficile de faire un truc réaliste.
Bah voilà, là, c'est vraiment ça, c'est un peu ça.
Mais bon, on va pas condamner toute la série sur cette scène de 15 secondes.
Non, et surtout que le cliffhanger final est vraiment... Enfin, il y a une scène à la fin où je sais pas si le personnage va... Il y a un personnage qui meurt, mais on sait pas trop s'il est mort ou pas. Enfin, c'est du funker, quoi. Non, il y a une scène. Et là, les figures... en gros, il y a, comment dire, l'arc, on va dire, de Bloom sur tout qui elle est et sa nature est résolue. Et rentre à l'école, donc elles sont toutes contentes, non, c'est fini, c'est trop bien. Et bim, il y a un gros truc qui leur tombe dessus. Et moi, j'étais genre, oh, ça promet, tu vois. Je pense que... Non, ça va être cool. Après, je me suis un petit peu attachée aux filles, mais je trouve qu'elles ont peut-être soudé des liens un peu trop facilement. Elles s'aimaient pas trop au début, et puis à un moment donné, elles sont toutes devenues super copines. Enfin,
après 6 saisons, t'as pas trop le
choix. 6 épisodes.
Six épisodes. Mais du coup, il y aurait peut-être eu un petit élément pour les lier. Parce que là, ça se fait vraiment du flip. Genre, il y en a une qui s'envole, et quand elle revient, c'est « Oh, je vous aime, vous êtes mes meilleurs amis, ok. » Et je me suis pas du tout attachée au garçon. Je trouve que, pour l'instant, ça fait vraiment juste « Oh, il y a des garçons, ils sont là. »
Ils sont un peu stéréotypés, je trouve.
À part le frère de Terra. Le frère de Terra, c'est le seul... Oui. Du coup, c'est une fée. Et c'est le seul à qui on s'attache un peu parce qu'il lui arrive un événement un peu traumatisant et puis il a une relation avec une des autres héroïnes. Donc c'est le seul qui est vraiment un peu plus dans l'histoire. Mais Sky, qui est le beau gosse de service, moi, pour l'instant, je m'y suis pas attachée.
Bah, c'est ce que je dis. Le frère de Terra, c'est le seul qui est bien écrit et les autres sont vraiment des clichés de séries adolescents. Il y a le garçon, le méchant garçon qui n'a aucune valeur et le blond quarterback du lycée qui fait tomber toutes les filles sur son passage.
Ouais, donc... même si je pense que le personnage que tu décris comme méchant, je sais même pas son nom pour te dire que je me rappelle pas du tout.
Non, je dis méchant, c'est juste que c'est un branleur, quoi.
Mais ce gars-là, je pense pas qu'il soit branleur, je pense que c'est un peureux. Vraiment, c'est un mec qui il est vraiment il a peur, tu vois. Il est pas très doué pour se battre et tout ça, je pense que il flippe.
Il flippe
sa mère.
Hein.
Il est nul.
Enfin, je fais juger en plus.
C'était notre avis sur la saga Winx. Et pour l'instant, je sais pas s'il y a une saison 2, mais je pense que si ça fonctionne bien et ça a l'air, on devrait voir la suite prochainement.
Espérons. Et terminons par la dernière série live action dont on doit vous parler. C'est Lupin. C'est toi, Damien, qui a regardé. Nous avons été un peu feignants, on n'a pas regardé.
Malgré toutes les pubs qui sont sorties avec Omar Sy qui fait des trucs foufous à chaque fois.
Qui met des affiches dans le métro.
J'ai vu celle-là, mais il y a eu un autre truc.
Ah, ouais. J'ai pas vu.
Et je l'ai oublié entre deux. Ah, tant pis. Mais
tu l'as regardé ? Non, tu l'as vu, mais tu l'as pas regardé.
Mais oui.
Mais peut-être que c'est le syndrome Bridgerton, tu vois. Moi, j'ai regardé les Bridgerton parce qu'il y en avait partout sur les écrans, il y avait la pub à la télé, et j'étais déçue. Du coup, je me dis, ils ont fait pareil avec Lupin, donc je suis en mode.
Ah, du coup, t'as peur d'y aller parce que t'as peur que ça soit.
J'ai peur d'y aller parce que j'ai peur qu'ils mettent en avant que des trucs pourris.
Bah, du coup, non, c'est plutôt bien. Ça fait un peu. Déjà, je l'ai mis en VO et j'étais surpris par les Français.
Bah, c'est vrai ?
Ouais. Bah, je sais pas, moi, je pensais que c'était.
Mais c'est une série française.
Bah, je savais pas.
Bah, si, c'est une série française.
Bah, oui,
c'est produit en France et tout.
Oui, il n'y a que des acteurs français, tout le monde parle français.
Oui, c'est vrai.
C'est pas la première, comme
moi, ça
Family Business. Family Business.
Mais Family Business, oui. C'est pas Canal.
Mais Family Business, c'est Netflix.
Ah, oui.
Mais Family Business, c'est pas fait pour briller à l'international, contrairement à Lupin, qui était un blockbuster de la plateforme.
Et du coup, bah, ça raconte l'histoire de... Pardon, j'ai oublié son nom. Ah non, Hassan Diop qui est... il y a plusieurs temporalités dans Lupin. Du coup, en gros, il y en a deux principales. Il y a le Lupin jeune au moment où son père a des petites embrouilles, et il y a le Lupin actuel qui est plus marié, mais qui a été marié peut-être et qui est séparé et qui a un enfant. Et ouais, mais c'est pas un spoil, on le voit assez vite. Et donc en gros les deux temporalités se rejoignent parce que du coup il est arrivé des embrouilles à son papa et le Lupin de actuel doit essayer de résoudre ces embrouilles. C'est grossièrement le petit principe. Et alors c'est quand même assez bizarre au niveau du traitement. Enfin je sais pas, moi ça m'a fait un peu penser à une espèce de tentative de ressembler à Sherlock, la série qui est bien. Mais il y a des... Je sais pas, le côté français rend le truc un peu moins sexy et tout. Enfin, après, là, je sais pas si c'est moi qui...
Peut-être parce que t'es pas habitué à regarder des séries françaises aussi.
Voilà,
tu regardes d'autres séries françaises ?
Non.
Genre 10% ?
Non.
Bah, Family Business ?
Non.
Il y en a plein importants qui sont très bien.
Mais quand j'ai...
C'était quoi aussi ? Planqueur.
Mais on est sur des séries, des comédies pour celles que les séries que tu viens de citer.
Là, c'est pas du tout une comédie. Mais voilà,
quand on est sur un truc d'action, j'ai remarqué que quand on se rapproche du modèle des blockbusters d'action américains, il y a un truc très bizarre. Dès que ça se met à parler français et que c'est pas doublé, je sais pas. Et ça m'a fait pareil pour Lucy, qui est peut-être un des plus gros blockbusters d'action. Oui, de Besson, un des plus gros blockbusters d'action qui a été produit en français. Et ben, dès qu'ils se mettent à parler français, enfin avec des acteurs français, il y a un décalage très bizarre qui se crée. On est sur une sorte de petit malaise. Et peut-être que c'est ça qui t'a touché aussi.
Ouais, c'est possible. Après, du coup, la série est bien. Il y a un vrai arc narratif aussi. La fin pourrait être mieux. Ça fait pas fin de saison, ça fait fin de partie.
Bah, c'est la partie A, quoi.
Voilà, bah, du coup, c'est assez logique. C'est juste un départ. Donc, c'est un côté un peu frustrant, pour le coup. Mais il se passe suffisamment de choses dans la première saison. C'est pas juste une introduction, donc... dans la première partie. Donc, du coup, c'est quand même vraiment satisfaisant. Et puis, Omar Sy, il est trop fort. Il fait des trucs fous. Il court sur les toits de Paris et tout.
Oh là là, le rêve.
Et du coup... Et en plus, les intrigues sont suffisamment compliquées pour que tu vois pas tout venir. Donc ça, c'est cool. Que Lupin, c'est censé être un peu foufou aussi dans ce genre-là.
Oui.
Moi, j'ai bien aimé.
Nous, on n'a pas vu. On en reparlera la semaine prochaine. Mais j'ai vu que, et ça, c'est plutôt pas mal, les livres, les romans de Arsène Lupin étaient en rupture de stock partout. Ça a redonné aux gens, et notamment aux plus jeunes, envie de redécouvrir les romans. Et du coup, je trouve ça très bien que... Que ça fasse qu'on se rappelle qu'avant c'était des livres.
Je sais plus trop ce que ça donne en livre. J'en avais lu un ou deux plus jeune, mais
j'ai jamais lu.
Dans mon souvenir, c'était un peu vieillot quand moi je l'ai lu, que ça a pas dû gagner en jeunesse, mais en même temps c'est sorti il y a longtemps.
Bah oui, donc, c'est de l'époque. On a fait le tour des séries live action. Passons maintenant aux séries d'animation. Et commençons par de l'animation japonaise, si je ne dis pas de bêtises.
Non, tu ne dis pas de bêtises.
Et très bien. Ça s'appelle Le garçon d'à côté.
Oui.
Vous l'avez entendu, c'est Mathilde qui a regardé. C'était sur Netflix. Et tu vas nous en parler maintenant.
Alors, Le garçon d'à côté, il n'y a qu'une saison. C'est un intégral de 13 épisodes de 25 minutes et ça date de 2012, donc c'est pas tout jeune. Comment je me suis retrouvée à regarder cette série, vous me direz?
L'algorithme.
Bah, l'algorithme. Il s'est dit... Enfin, il a vu que je regardais des animés japonais en ce moment parce que j'ai regardé My Hero Academia. Mais rien à voir...
Ah, spoiler.
Mais rien à voir...
Spoiler du podcast.
Mais rien à voir, il s'est dit, tiens, un petit animé tout mignon... en mode un peu shoujo, peut-être que ça va lui plaire, et je sais plus pourquoi, j'ai lancé, et c'était sympa. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Le garçon d'à côté, ça raconte la vie amoureuse et amicale de deux lycéens, Tsuzuku, qui pense qu'à ses études, et Haru, qui a du mal à lier des relations sociales. Tous deux, ils se rencontrent lorsqu'un jour, Tsuzuku apporte à Haru ses devoirs, après qu'il se soit fait exclure de l'école parce qu'il s'était fait battre. Enfin, il avait fait une bagarre dans la cour. Et alors, ils débutent leur histoire d'amitié. Voilà, voilà. Alors, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cet animé. J'ai beaucoup aimé. C'est frais, c'est coloré, ça met de bonne humeur. Et les personnages principaux sont super attachants, surtout Haru. Haru, c'est... Oh, elle est trop cool et je l'adore. Il fait des choses super étranges et moi perso ça m'a fait beaucoup rire. Par exemple, ils se prennent partout avec Nagoya qui est un coq. Mais vraiment, ils se prennent partout avec son coq. Des fois, t'arrives et t'as une scène où il a son coq qui est sur sa tête.
Ce qui n'arrive pas dans la vraie vie.
Dans Zelda.
Du coup, ses profs sont pas contents, ils veulent pas que le coq y soit là, et au final, ils arrivent à créer un petit enclos pour le coq, et le coq, Nagoya, habite à l'école avec eux. Enfin, c'est très amusant. Il a des réactions super étranges, comme dès qu'il veut taper tout le monde. Enfin, il est pas très sociable en fait, et ça fait que par exemple, quand quelqu'un le regarde, et ben, il a tout de suite l'impression qu'on le regarde de travers, donc on dirait un animal sauvage, il a envie d'attaquer. Genre, vous me regardez, pourquoi tu me regardes? Il est pas très sociable, quoi. Il est un peu comme un animal sauvage. Je pense qu'il a clairement, des problèmes relationnels. Hein. Il est peut-être un peu autiste. Je ne sais pas, je me suis demandé à certains moments. Mais il est vraiment adorable. Bon, il ne sait pas se tenir en société non plus. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé leur petit duo entre la première de la classe et l'insociable un peu chelou, en sachant que Haru est pas très sociable, mais il est très intelligent, ce qui fait qu'il arrive à avoir de meilleures notes que notre héroïne, qui supporte pas ça. Clairement, elle bosse comme une acharnée et elle supporte pas qu'il ait des meilleures notes qu'elle. Mais ils font un couple trop mignon. J'étais un peu déçue parce qu'il y avait que 13 épisodes de 25 minutes. Du coup, bah, ça s'est un peu arrêté comme ça. Allez hop, c'est fini. Alors qu'en fait, il y a 13 mangas. Donc moi, j'étais un peu, bah non, moi, je veux continuer et tout. Donc bah, j'ai lu les 13 mangas.
Les 13 ?
Hein ?
Les 13 ?
Les 13.
Les 13.
Les 13 mangas, ouais, je les ai lus sur ma tablette. Et... bah, c'était très agréable de continuer l'histoire avec les deux tourtereaux. Voilà.
Et l'anime, il continue ou pas du coup?
Non, l'anime a été fini. Il y a des OAV qui sont pas disponibles sur Netflix, donc peut-être que je regarderai les OAV. Mais non, c'est fini. Mais vraiment, c'est super amusant. Moi, je rigole tout. Enfin, rien, je repense à des scènes là, ça me fait rire. Enfin, c'est trop bien.
C'est bon?
Ah oui, mais...
D'accord, merci.
J'ai trop enjoué.
Ensuite, Mathilde et Damien, vous avez regardé la saison 2 de My Hero Academia.
Oui.
Sur Netflix encore.
Oui. Alors, la saison 1 a compté 13 épisodes, la saison 2 a un peu augmenté, on est à 25 épisodes, et moi j'étais trop contente parce que c'était beaucoup plus de bagarre. Alors, on retrouve Izuku Midoriya, notre héros, D'ailleurs, en faisant des petites recherches et en étant plus attentif aussi à ce qui se passait dans la série, parce que du coup, je me suis rendu compte, mais Mathilde, tu fais pas du tout attention, que Izuku, ça pouvait aussi également se dire Deku avec d'autres signes japonais.
Mais ils en parlent plein de fois, en fait.
Mais oui, mais moi, j'avais pas du tout capté.
Tu regardes en VO ou en VF ?
En VF.
Ah, c'est pour ça, je pense. Parce que du coup, les jeux de mots, ils sonnent, en fait, quand ils le disent.
Mais du coup, moi, là, ça marchait pas. Donc, en gros, et Deku, qui signifie bon à rien. Et du coup, c'est Kachan qui arrête pas de l'appeler Deku. Parce qu'il l'appelait bon à rien. C'était son petit surnom. Alors, Damien, qu'as-tu pensé de cette saison 2 ? J'ai mis un petit récapitulatif de ce qui se passe. En gros...
Ouais, je me souvenais des trois arcs un peu.
Ouais, pour résumer, on débute après l'attaque des vilains de la saison 1. Oui, c'était des vilains. Et le lycée Yue, donc où est toute notre petite bande, reprend les cours et organise le championnat des écoles, qui est un super événement qui remplace les JO au Japon. Donc c'est quelque chose de vraiment très regardé.
Ils disent pas que ça remplace, ils disent que c'est en parallèle, mais qu'il y a plus de monde qui regarde.
Oui, parce que
c'est plus marrant de regarder des gens avec des super pouvoirs.
C'est ça. C'est parce que les JO, je crois que c'est pas des gens avec des super pouvoirs, donc du coup ça prend le pas. Et toutes les filières de l'école de Yue sont représentées, et même ceux qui ne sont pas en filière héroïque.
Oui, et ils ont même normalement la possibilité de passer en filière héroïque, donc
oui.
ils essaient d'être forts.
C'est ça. Donc après, il y a des épreuves, donc la course d'obstacles, les cavaliers trucs, c'est en...
Ouais, ça n'avait aucun sens, ça.
En plus,
ils n'ont pas expliqué du tout, et là, tu les vois qui se montent les uns sur
les
autres.
Ouais, c'était... Moi, j'ai pas trop compris, mais en gros, c'est...
Ça doit être un truc japonais.
C'est un espèce de truc où ils font des équipes, et ils ont des bandeaux, et ils doivent s'enlever les bandeaux sans toucher le sol. Pour gagner des points. Et après, on a les combats. Donc, traditionnels, c'est la troisième épreuve. Donc, les candidats qui restent s'affrontent les uns avec les autres. Et voilà. Donc, ça, c'est le gros arc sur le championnat. Et après, on a un autre arc un peu plus petit sur le stage et le choix des...
Tu trouves qu'il est plus petit ? Parce que l'arc sur le stage, c'est là où il y a Stein aussi.
Oui, c'est là où il y a Stein aussi. Non, bah il est aussi gros, c'est juste que moi j'ai arrêté de prendre des notes après. Voilà. Mais en gros, moi j'ai vraiment bien aimé parce que déjà Midoriya commence à. Enfin, quand au championnat, il est encore un peu en galère d'utiliser le One for All. Mais il trouve des techniques, il se sert de son intelligence au lieu de se servir de son pouvoir, on peut dire, pour gagner la première épreuve, et ça c'est vraiment cool à voir. Et après, dans la deuxième partie avec le stage, ça lui permet de s'approprier mieux le One for All, et là ça devient trop cool parce que il arrête de se casser n'importe quel membre. Et moi, c'était un plaisir de commencer à le voir devenir fort et combattre et tout. J'étais trop contente.
Ça fait vraiment shonen très basique.
C'est super basique, mais l'histoire en elle-même est basique. Ouais.
Moi, j'ai vu un petit peu, et ça, effectivement, ça me faisait beaucoup penser à Naruto, dans la construction des personnages, etc., dans les relations qu'ils ont entre eux.
Ouais.
Alors, ça se trouve pas du tout.
Du coup, j'ai pensé à ça parce que j'y ai aussi pensé parce que je trouve que la relation entre Deku et Kachan est un peu comme on pourrait un peu la comparer à celle de Naruto et Sasuke, dans le sens où ils sont un peu ennemis, mais en même temps, tu vois bien qu'ils sont.
Ouais, mais par contre, c'est vraiment moins premier degré, quoi. Naruto, c'est un côté lourdingue.
C'est beaucoup moins premier degré, et je trouve que Kachan est un personnage beaucoup plus complexe. Que Sasuke, parce que Kachan il est quand même dans la partie des héros, à aucun moment il passe de l'autre côté. Donc et moi j'avoue que j'ai regardé la suite, donc
ah ouais.
Ouais, j'ai pas pu m'en empêcher, donc du coup
tu sais à quel moment s'arrête cette saison ou pas?
Elle s'arrête
parce que moi je sais plus hein, donc...
Ah, t'as continué aussi?
Non, justement.
Moi, je vais pas dire.
Plus de la fin.
C'est avant qu'ils partent au camp de vacances. Toi, t'as pas vu le camp de vacances encore, donc c'est juste avant. C'est juste quand à la résolution de Sten, hein.
Oui, c'est vrai.
C'est ça la fin. C'est en gros, ils attrapent.
Deux. Parce qu'ils devaient pas tous partir au camp de vacances. Il se passe un truc là, mais bon, c'est un petit.
Il y a le choix des noms des héros. Il y a pas ça? Si, ils choisissent leur nom de super-héros, mais ça, c'est avant, en fait, d'aller... ouais, qu'ils aillent en stage.
Ouais, mais il doit manquer un petit bout.
Oui, il manquait un petit bout, mais je sais plus trop. Mais en tout cas, moi, après, dans la saison 3, ils partent au camp de vacances. Et c'est comme ça qu'elle débute la saison 3.
Okay. En tout cas, moi, j'ai bien aimé qu'ils développent un peu plus tous les autres personnages. Kachan un petit peu, mais pas tant, du coup. Mais par
plus,
contre...
Ils le développent pas là, parce qu'en fait, il est vraiment plus développé dans la saison 3. Et ouais. C'est parce qu'il y a, il se passe quelque chose.
Bah là, tu le vois juste frustré que l'autre il progresse tout le temps et que lui il arrive à rien. Enfin, il arrive à rien.
Ouais, que mais lui... je pense qu'il y a All Might qui dit un truc vrai à Kachan. Je crois qu'à un moment il lui dit mais qu'est-ce que tu croyais des coups, enfin, en gros, des coups, il était genre à 5% de sa progression. Ouais. Alors que Kachan il était déjà à 50%, donc il a forcément moins de marge de progression en gros. Là où des coups il peut encore progresser de ouf, bah Kachan au bout d'un moment il va arriver au mur, il pourra pas aller plus haut. C'est ça le problème. Mais non, c'était vraiment sympa. Et j'ai mis cette petite phrase de Izuku, de Deku qui dit qu'il a envie de devenir un héros toujours souriant, qui a le cœur vaillant. Ah, je trouve ça trop mignon. Non, vraiment, je suis totalement fan. J'adore cette série. Et je sais pas quand la saison 3 va arriver sur Netflix, mais j'avoue que moi j'ai pas eu le courage d'attendre. Parce qu'en plus, la saison 5 va sortir bientôt. Mais en VO, bien évidemment.
Ouais. Mais vu qu'elles sont déjà sorties et qu'ils ont sorti les deux pas très longtemps après, avec un peu d'espoir peut-être qu'ils vont les enchaîner.
Ouais,
trop.
Mais ça n'a pas été annoncé en février, donc ça serait pas ce mois-ci déjà. Donc moi j'avoue que ça me saoule un peu d'attendre. Donc j'ai continué. Voilà, c'est méchant, c'est pas bien. Mais c'est tout.
Voilà, très bien. Moi j'ai regardé. Une série d'animation.
T'as regardé quelque chose ?
J'ai regardé quelque chose tout seul en plus. Il s'agit de Star Wars Resistance.
Mais c'est aussi une série d'animation japonaise alors que.
C'est pas. Non, c'est américain. Mais
si. Mais... Oui, mais ça reprend les styles des animés japonais. Tu dis que t'as regardé tout seul, j'ai regardé tout le début quand même.
T'as regardé 7 épisodes.
Moi je l'avais vu aussi.
Ah, tu l'as vu aussi ?
Il y a un peu de temps.
Petit résumé rapide. Nous suivons Kazuda Xiono. Donc effectivement, on est sur des sonorités très japonisantes.
Ah bon.
Non, mais c'est très voilà, c'est clairement inspiré. C'est un jeune espion de la résistance engagé par Poe Dameron qui arrive sur la station le Colossus sur la planète Castillon et doit enquêter sur le Premier Ordre qui semble très intéressé par la planète et la plateforme. Donc comme vous l'avez dit, oui, visuellement, ça s'inspire beaucoup de l'animation japonaise. C'est tout en 3D, comme les autres séries d'animation Star Wars, mais effectivement, là, c'est très en 3D. Donc ça a fait un mélange très joli, très coloré, que moi, j'ai bien aimé. Moi qui ne suis pas un grand, grand fan de l'animation japonaise, là, j'ai trouvé ça super chouette. Il y a même, et ça c'est toi Mathilde qui l'avait relevé, il y a deux personnages qui sont carrément sortis d'un Miyazaki.
Les mécanos, je crois.
C'est pas des mécanos, c'est ceux qui tiennent la boutique de pièces détachées.
Ouais, en mode un peu monstre.
Je trouve qu'il ressemble vraiment.
Il y a un petit cochon, c'est un petit cochon et un oiseau, on va dire, qui sont humanoïdes, mais voilà, ils sortent carrément d'un Miyazaki. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup, mais s'il traînait dans Le Voyage de Chihiro, ça ne m'étonnerait pas trop. Au début, c'était très niais, très enfantin. C'est peut-être pour ça que Mathilde n'a pas trop accroché.
Moi, j'ai l'impression que c'était un épisode d'une histoire, quoi.
Bah, au début, c'était ça.
Surtout le premier, du coup.
Et j'ai du mal avec ce genre de truc que toi. C'est aussi pour ça que les premières saisons de Buffy, ça me... Ouais. Un épisode, une histoire.
T'auras dû t'accrocher parce que comme toutes les séries de Dave Filoni...
Finalement, non.
Comme toutes les séries de Dave Filoni, au départ, c'est très niais. Puis d'un coup, il se fait, mais si on faisait un truc un peu plus adulte. Parce qu'il se rend compte qu'il n'y a que les adultes qui regardent ces séries. Donc ça devient beaucoup plus intéressant. Il y a un fil rouge qui se crée à peu près avec le Premier Ordre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Et donc, du coup, il y a même un climax incroyable. Enfin, oui, toute proportion gardée, j'ai trouvé la bataille finale de la fin de la saison qui était super cool.
Enfin, j'ai regardé toutes les saisons, j'avoue. Du coup, je suis un peu perdu sur à quel moment on finit celle-ci.
Je ne veux pas le dire parce que ce serait du spoil. Mais ça finit par le Premier Ordre s'énerve un peu et puis...
Ah, bah si, oui, alors si.
Et puis Kaz réussit à déjouer tous leurs plans et à sauver sa petite équipe. Il y a même des personnages qui s'affirment en bien ou en mal. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. J'ai bien aimé parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas seulement une série un peu bébête pour les enfants, c'est que ça... J'ai trouvé qu'il y avait une manière de raconter comment un régime totalitaire s'immisce dans un système démocratique, parce que la station a son propre système démocratique. Et ils arrivent là-dedans et petit à petit, ils mettent en place leur autorité. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt malin. Et aussi, j'ai bien aimé que ça se passe en même temps que Star Wars 7. À un moment, il y a Poe Dameron qui dit « Je suis envoyé sur Jakku par la générale Organa ». Donc on comprend tous qu'il va, il va faire la mission qui va lancer Star Wars 7. Donc même si la post-logie n'est pas ma trilogie préférée, j'ai trouvé ça cool que ça soit très lié aussi visuellement que dans la narration. Voilà. Et j'attends la saison 2, qui apparemment est beaucoup plus mature, un peu comme la fin de la saison 1.
Mais parce que là, du coup, sur Netflix, elles n'y étaient pas.
C'est sur Disney Plus.
Pardon, oui, elles n'y étaient pas.
Si, mais j'ai juste pas encore regardé.
Ah oui, ok.
J'ai fini l'aventure.
Oui,
fini
mais parce que comme tu disais, j'attends, je me suis dit, ah, elle n'est plus dispo, c'est bizarre.
Non, je commence la saison 2 demain, mais...
C'est vrai, voilà. C'est écrit en plus Disney Plus.
Eh oui.
Voilà. Mais du coup, comme c'était un peu japonisant, je me suis dit, ah, bah c'est... Voilà.
Non, mais non, ça, visuellement, c'est très beau. C'est vrai qu'au départ, au tout début, avant que la série ne sorte, j'ai dit, oula, pourquoi ils font ça? J'aimais bien les deux premières ambiances visuelles.
Ouais.
Moi, je trouve ça mieux.
Ouais, j'avoue que si tu le fais de l'autre sens, moi, du coup, j'avais pas regardé les deux autres avant, en tout cas. J'ai regardé celle-là en premier, et après, j'ai regardé les autres, et du coup, j'étais un peu en mode, ah, c'est moins beau.
Oui. Moi, c'est pareil, j'ai pas voulu regarder les autres, j'étais pas du tout attirée, et en fait, cette série, ce qui m'a attirée pour la regarder, c'est le visuel. Je me dis, ah, c'est beau.
Ah, mais moi, contrairement à plein de gens, j'adore le design de Clone Wars. Je trouve que cette espèce de on dirait des pantins articulés en bois, ouais, comme s'ils avaient été sculptés, je trouve ça trop cool. Et moi, j'aime bien. Après, Rebels, c'est un peu moins beau.
J'aime bien Rebels.
Mais comme ça s'inspire des dessins de Ralph McQuarrie pour la première trilogie, et ben du coup, ça crée une ambiance pareille, singulière. Au final, il y a trois séries d'animation qui ont vraiment une identité visuelle très propre.
Ça, c'est cool.
Et voilà. Et au moins, on peut leur les féliciter pour ça. Ils sont pas restés sur leurs acquis. Enfin, ils ont tenté des choses. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. C'est Damien aussi. Voilà, passons à la dernière série de ce mois-ci. C'est Désenchanté, je ne vais pas me tenter de le dire en anglais. La saison 3, non,
de...
si, j'arrive pas à comprendre.
La saison 1 était en deux parties.
D'accord.
Et là, voilà. Et là, c'est la première partie de la saison 2.
Moi, j'ai regardé toute la saison 1. Mais je ne me rappelle plus.
Ouais, c'est pas si surprenant. Du coup, c'est de Matt Groening qui a fait les Simpsons et oui. Futurama. Donc en théorie, ça devrait être vraiment bien. En gros, c'est dans un monde médiéval fantastique un peu chelou. Le début de la saison 1, juste pour remettre un peu de contexte, c'est une princesse. Enfin, on suit une princesse qui est alcoolique, qui a l'air blasé de la vie, qui est un peu laide, qui raconte pas grand chose d'intéressant dans ce qu'elle fait, qui doit se marier avec un prince qui vient d'un autre château, et c'est un espèce de mariage arrangé qui arrange tout le monde. Et on voit un petit peu sa famille, du coup, au fur et à mesure. Son père, c'est un espèce de... un mélange entre un... Ah tiens, il serait bien dans... J'ai des idées au fur et à mesure. Il serait bien dans Les Visiteurs. Il serait bien, enfin, un espèce de gros bouffe un peu débile. Et il est marié avec une créature bizarre qui n'est pas la mère de Bean parce qu'elle est partie. Elle est mariée avec un espèce de lézard qui se balade qui dort à l'envers accroché au plafond. Enfin, vraiment, c'est très barré comme monde. Bon, en même temps, c'est souvent un peu barré ce qu'il fait Matt Groening, mais pour autant là ça raconte pas grand chose en fait. La première saison, il y a les deux personnages un peu compagnons de Bean qui arrivent, qui vont la suivre dans toutes ces histoires, qui sont un peu le côté gentil et le côté méchant. Il y a un elfe et un petit démon. Et je sais pas, en fait, il y a plein de gags. Il y a souvent des trucs où tu dis « Ah, c'est rigolo », mais c'est tout. Et du coup, l'histoire principale, elle est un peu ennuyeuse. Parce que chaque saison, elle change. Il n'y a même pas un gros fil qui tient tout le long. Tu sens que ça donne l'impression de s'être perdu un peu au milieu. Comme moi, dans mon description. et ouais. Pour autant, j'en ai quand même regardé, du coup, plus ou moins 3 saisons.
Pourquoi ?
Ouais. Je sais pas trop.
Non, parce que moi, j'ai regardé la 1. Et vraiment, j'ai regardé, hein, parce que voilà. Et je me suis dit, non, mais sérieux.
C'est pour tes stats.
Et pourtant, j'ai.
Non.
Et pourtant, autant j'aime pas trop les Simpsons, ça arrive. Autant j'adore Futurama. Enfin, j'ai.
Ouais.
Et non, là, je m'y suis pas retrouvée.
Ouais, franchement, je sais pas trop. Je crois qu'une fois dedans, ça m'embête de pas finir. Pour autant, il doit y avoir autre chose que ça. Je me dis, c'est peut-être le côté un peu dépressif où, de toute façon, il se passe pas grand chose, t'en attends pas grand chose. Et du coup, tu le regardes un peu comme ça.
T'as pas pris tes vitamines du bonheur, ça va ?
Mais non, mais après, t'es pas déprimé en le regardant, mais juste, c'est très plat. Alors que pourtant, ça se barre dans plein de trucs. Il y a plein de mondes différents qu'elle visite au fur et à mesure. Ça parle vite fait de deuil et tout. Ça parle vite fait de gens qui deviennent fous parce qu'il leur arrive des trucs. Enfin, en soi, il se passe quand même plein de choses. Mais je sais pas, moi, ça m'accroche pas. Et pour autant, j'en regarde quand même.
C'est de l'autoflagellation, voilà. En fait. Très bien, bon bah c'était pas foufou.
Non, c'est un peu le résumé. Vraiment, il vaut mieux regarder Futurama deux fois que se dire tiens, je vais regarder ça qui est nouveau.
Et bah voilà. Ce sera le mot de la fin, regarder Futurama
deux fois.
Ce mois-ci, on a regardé 3 films. Commençons par Love Actually, que Mathilde et moi avons regardé. Si vous suivez, Damien l'avait regardé en décembre.
Ah oui, parce que c'est un film de Noël.
Bah oui, mais nous, on l'a regardé pour notre réveillon du 31.
Ah ok, ça passe.
Couvre-feu oblige, on est restés tous les deux et on s'est fait une soirée film.
Oblige, genre zut.
Non, mais c'était très
oh
bien.
Oh là, la galère.
Oh, j'ai pas dit.
Je restais tous les deux.
J'ai pas dit ça. Donc, on a regardé Love Actually sur Netflix. C'est un film de Richard Curtis sorti en 2003. Pour ceux qui ne savent pas, et je ne le savais pas avant de préparer ce podcast, Richard Curtis, c'est un monsieur qui est habitué des comédies romantiques puisqu'il a fait Coup de foudre à Notting Hill, que nous avions aussi regardé, Le Journal et Le Journal de Bridget Jones 1 et 2. Donc, il n'en est pas à sa première tentative. On retrouve au casting Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley et plein d'autres gens. Donc, je le dis pour que vous vous rendiez compte que c'est un gros, gros casting britannique. Petit résumé avant d'en parler. On suit le destin de plusieurs personnes, un couple récemment marié et leur ami qui ne semble pas apprécier la mariée, un écrivain qui vient d'être trompé par sa petite amie et qui fait la rencontre de son employé de maison, portugaise, un autre couple et la secrétaire du mari, le premier ministre et sa jeune collaboratrice, etc. Sur fond de Noël, c'est une histoire d'amour, de sentiments et d'humour. Qu'est-ce que, surtout Mathilde, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu l'avais déjà vu, je crois.
Oui, je l'avais déjà vu, du coup maintenant je vais avoir la musique dans la tête toute la journée.
Eh oui.
Parce que voilà. J'aime bien, je trouve ça sympa, c'est mignon, c'est Noël, c'est tout ce qui est... Enfin, c'est une très bonne comédie romantique de Noël. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus parce que c'est... Oui, voilà. Après, c'est pas non plus ma comédie romantique préférée, hein. Il y en a d'autres. Mais je trouve qu'elle passe bien.
On peut pas faire plus cliché, il y a même l'aéroport à la fin du film. C'était mignon comme tu as dit. C'est un vrai film choral, donc avec les petits défauts que des fois il peut y avoir, c'est que j'ai pas les liens entre les personnages, je les trouvais pas toujours super clairs.
On les a à la fin.
On les a soit au tout début au mariage,
ouais,
soit tout à la fin.
Ouais, mais au début du coup tu le sais pas.
Oui, voilà. Mais c'est le seul problème que j'ai, par exemple. Et je me rappelle toujours pas le lien entre, alors j'ai noté, Jack et Judy, les personnages de Martin Freeman et Joanna Page, ceux qui font les doublures dans les films pour adultes, qui passent leur temps tout nu. j'ai pas compris finalement le lien qu'ils avaient avec le reste. Je les ai un peu trouvés comme des...
Ouais, c'est vrai, ils sont un peu rajoutés.
Ouais, voilà.
Donc, mais je crois qu'ils vont au mariage pourtant.
Oui, mais c'est le seul truc.
Ouais, mais...
C'est des potes quoi, mais oui, c'est genre, c'est tout au final.
Mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas... Il y avait certaines relations qui étaient pas super claires, comme finalement...
Mais par contre, c'était très drôle du coup.
Ah oui, ils sont marrants, oui. Mais comme...
J'adore cet acteur, il est trop bien.
Oui.
On regarde une autre série actuellement, il est dedans.
Charles.
Non, une autre, on en parlera plus tard, un autre jour.
J'ai noté aussi que ça puait l'Angleterre, mais ouais, dans le bon sens. On sait qu'on est
en Angleterre. Mais c'est ça qui est
bien. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Je trouve que l'ambiance est géniale.
So British.
Mais quand je dis ça pue, c'est pas dans un sens négatif, même si le mot est pas ouf. Et pour finir, je dirais que l'histoire qui m'a le plus touchée, que j'ai trouvée la plus mignonne, c'est celle du petit garçon Sam. Déjà, c'est très rigolo quand je l'ai vu parce que c'est Thomas Sangster qu'on a vu adulte dans le labyrinthe. Donc, le voir à 5 ans, c'est très rigolo.
Ah, il est aussi dans la série avec les échecs.
Ah,
on n'a pas regardé.
Le jeu de la dame.
Oui, voilà, il est aussi dans le jeu de la dame.
Avec son beau-papa Daniel Liam Neeson. Et je trouvais que leur relation était super chouette. On pouvait s'attendre au départ, quand on comprend un petit peu leur relation, que la maman de Sam est décédée, on s'est dit, oh, ça va être un peu... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu peur que ça soit le truc un peu relou d'un beau-père et son fils, et ça marche pas du tout, ils s'entendent pas. Et en fait, je trouvais qu'ils étaient très unis par ce deuil. Enfin, c'était très mignon. Et puis lui, en plus, il est juste amoureux d'une fille, et c'est trop rigolo, c'est trop mignon.
La façon de écrire son histoire d'amour.
Oui.
Je suis amoureux.
Mais c'est
horrible. Mais non, mais c'est bien. Mais comment tu peux dire que c'est bien? Genre, il est trop déprimé. C'est la pire chose du monde d'être amoureux.
Mais oui, non, et puis à la fin, il a ce qu'il veut. C'est pas du tout ce qu'un adulte voudrait. Oui. Mais lui, il a ce qu'il veut et il est, voilà, il est aux anges. Et enfin, je trouve que c'est l'écriture de ces deux personnages est super mignonne. Et aussi, voilà, j'ai enfin vu la scène des pancartes.
Ah oui, mais non, du coup, en voyant cette scène à la fin du film, il me dit... Mais c'est pas du tout ce que je pensais.
Oui.
Je pensais que du coup, c'était genre une déclaration. Genre, il lui faisait une déclaration d'amour et que la fille à la fin. Bah, le gars avait la fille à la fin. Et moi, je dis, ah non, moi, non, non. Il fait, mais c'est super déprimant.
Bah oui.
Moi,
je pensais que la scène des pancartes, c'était le climax. Je savais pas que c'était Love Actually, mais je pensais que c'était le climax de cette comédie romantique, voilà, où à la fin, ils sont amoureux pour toujours. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est. Mais au moins, voilà. Je peux dire que j'ai vu la scène des pancartes.
Maintenant, si tu utilises un gif avec cette scène de pancarte, tu te rappelleras que c'est pas pour un truc
positif.
C'est
pas forcément bon signe.
C'est pas bon signe, la scène des pancartes.
Ouais, mais bon. Je l'ai vu et ça me suffit à combler mon bonheur. Ensuite, continuons notre réveillon du premier de l'an. Finalement, on a enchaîné, on a regardé après Happiness Therapy. Sorti en 2012, qui est disponible sur Netflix. C'est un film réalisé par David O. Russell avec Jennifer Lawrence, qui a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film, avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Et c'est une adaptation du roman The Silver Linings Playbook de Matthew Quick. Et ça parle de Pat, qui est joué par Bradley Cooper, qui sort d'un hôpital psychiatrique pour excès de violence. Et il est bien décidé à changer pour retrouver l'amour de son ex-femme. Et pour ça, il retourne vivre chez ses parents et rencontre rapidement Tiffany, qui est la belle-sœur de son meilleur ami. C'est une jeune veuve présentant elle aussi des troubles psychiatriques. Et ils développent ensemble une étrange amitié et s'inscrivent à un concours de danse. Dit comme ça, c'est très bizarre. Mais c'est un film que moi j'aime beaucoup. Et là, cette fois, c'est toi, Mathilde, qui l'a découvert.
Oui, je ne l'avais jamais vu. Et j'ai été vraiment surprise. J'ai trouvé qu'il était vraiment super bien. Et je trouve que Jennifer Lawrence, on la découvre dans un tout autre univers. Moi, je l'ai vu dans Hunger Games, par exemple. Donc,
ce film est juste avant ou pendant le premier.
D'accord. Bah,
donc, c'était pas la méga star encore.
Ouais, non, c'était, je la découvre dans quelque chose de totalement nouveau et ça marche très bien. Et je trouve que le thème de la psychiatrie et des maladies psychologiques est super bien abordé. Et on montre aussi la complexité des choses. Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la scène du concours de danse, moi, je l'ai trouvé incroyable. Enfin, j'ai trop aimé, parce qu'en fait, c'est pas un film de danse, hein, clairement. Ils font pas ça parce que c'est des danseurs professionnels. Hein. Ils font ça parce que ça leur permet d'avoir du bien-être, en fait. C'est des personnes qui sont un peu... Enfin, elles ont des problèmes psychologiques et la danse les aide à se focaliser sur quelque chose. Et du coup, la scène où ils dansent, non mais... J'ai beaucoup aimé cette scène. C'était un peu loufoque, mais
on s'y attend pas.
Je trouvais ça trop bien.
Et d'ailleurs, c'est ça le nom du film, Happiness Therapy, c'est exactement ça. La danse, c'est leur thérapie du bonheur. C'est pas le titre original, Happiness Therapy, mais je trouve qu'il il est assez approprié au ton du film et au sujet du film. Voilà. Après, on peut dire que la mise en scène est vraiment plutôt bien faite. Justement, il y a pas mal de scènes cacophoniques en plan séquence pour montrer que ça, tout le monde parle en même temps. Enfin, ils se coupent la parole, ça se parle les uns par-dessus les autres. Du coup, on est toujours un peu sur une sorte de tension entre les personnages pour montrer que voilà, c'est toujours tendu et que peut-être que ils ont ce comportement, cette fragilité mentale parce que leur environnement familial n'est pas des plus sains.
Ouais, d'ailleurs, je rajouterais juste un truc, c'est que le film parle également du deuil, du coup, pour notre héroïne, et de l'acceptation de la façon dont chacun accepte le deuil. Mais ça montre, au-delà des deux personnages qui ont des problèmes psychologiques avérés, je trouve qu'il y a d'autres personnages où ils sont à la limite. Hein. Typiquement, le père de Pat, pour moi, c'est pas avéré qu'il a des problèmes psychologiques, mais il a quand même des gros tocs, quoi.
Il est interdit de stade, il est fan absolu de l'équipe de baseball de foot.
Je sais plus, mais
de l'équipe de la ville, mais comme il est beaucoup trop violent, il est exclu du stade parce qu'il a fait une méga bagarre.
Mais en dehors de ça, il a des je sais pas si c'est des tics ou des tocs, mais en gros
c'est vrai,
quand il regarde les matchs, il faut que la télécommande soit à tel endroit, il faut que son fils soit à tel endroit, il faut qu'il ait tel bout de papier dans la main ou tel tissu dans la main pour gagner. Enfin, il y a vraiment tu te rends compte que peut-être que Pat a des problèmes, mais en fait il montre aussi ce côté un peu ça vient pas de nulle part, en fait. Et là où Pat est suivi, il y a un traitement. Enfin, son père, il devrait être autant suivi que lui.
Il aussi.
Il y a aucun, vraiment, c'est vraiment très légère.
C'est juste que Pat a eu un événement qui l'a traumatisé et qui l'a fait un peu péter un câble, ce que son père n'a sans doute jamais vécu, mais ils ont
la perte de son équipe, du coup, qui est énorme.
Il regarde les matchs à la télé, du coup, mais à chaque fois qu'il regarde le match, il a une espèce de... il a des choses qu'il faut qu'il fasse, parce que, par exemple, il dit que quand Pat est pas dans la même... que quand son fils est pas avec lui dans la pièce, il gagne pas.
D'accord.
Tu vois, c'est dans sa tête, hein, c'est tout dans sa tête. Et du coup, l'actrice, d'ailleurs... comment elle s'appelle ? Tiffany joue avec ça, parce qu'elle lui dit... Elle dit au père de Pat que, en fait... ils gagnent les matchs, leur équipe gagne les matchs quand Pat est avec elle. Tu vois, genre, elle inverse le truc, fait ce soir-là, vous avez gagné ou vous avez perdu ? Fait on a gagné, Pat il était avec moi. Là, vous avez gagné ou vous avez perdu ? On a perdu, il était pas avec moi. Enfin, tu vois, elle rentre dans son jeu pour lui faire accepter quelque chose qui est le concours de danse, en fait. Et je trouve qu'elle est maligne là-dessus. Elle se sert du problème psychologique de cette personne, elle l'analyse, elle comprend ce qui se passe et elle est super maligne. Non, c'est un super bon film.
Oui, et c'est pas tant que. Ou alors c'est une comédie romantique un peu détournée. Voilà, pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Et on t'a donné envie de le regarder ?
Oui.
Ah, super. C'est sur Netflix. Et terminons par un film d'animation sur Disney+, c'est Réponse, que personnellement je n'avais jamais vu. Tu l'as déjà vu, Damien ?
Je crois pas. Ah. Elle a des longs cheveux, elle s'échappe de sa tour.
C'est le meilleur résumé qu'on pouvait faire. Et Mathilde l'avait déjà vu, puis un soir elle a dit j'ai envie de regarder Réponse, alors j'ai dit
regarde. Elle est pas rousse ?
Non, elle est blonde. Elle a une chevelure d'or.
Ah dans ma tête, elles sont un peu mélangées.
Ah.
C'est réalisé par Byron Howard et Nathan Greno, et les voix françaises sont assurées par Maïva Méline Romain Duris, dis donc. Il fait Flynn.
Ah, c'est ça.
Et Isabelle Adjani qui fait la mère de Réponse. Ça parle donc d'une blonde qui a les cheveux super longs. Non, ça parle de Réponse qui est une jeune fille téméraire à la chevelure longue de 20 mètres.
C'est précis. Vraiment très long.
Oui. Et ses cheveux sont magiques. Elle est confinée, dis donc, elle aussi, seule dans une tour à l'abri des regards. Et elle a soif de découvrir le monde et rencontre par hasard le brigand Flynn Rider. Ce nom ne fait pas du tout
de
Disney.
Son nom Eugène.
Je suis un brigand. Je m'appelle Rider.
De son vrai prénom Eugène, il me semble.
Eugène Rider.
Hein? Eugène Rider. Il s'appelle juste. En fait, si je me rappelle, il se fait appeler Flynn Rider parce que c'est genre le nom qu'il a lu dans un bouquin ou quelque chose comme ça. Mais son vrai prénom, c'est Eugène.
D'accord.
Enfin, je crois.
C'était pas assez américain.
C'est là qu'il s'appelle pas du tout Eugène.
Et ensemble, ils quittent la prison de Réponse et ils vont vivre un tas d'aventures. Et ben moi, qui découvrais ce film, j'ai trouvé que c'était un film très amusant et particulièrement que c'était insolent et irrévérencieux pour Disney, qui nous avait plutôt habitués à des princesses très très gentilles, peut-être un peu plates et ennuyeuses.
Insolent à ce point-là.
Si, Flynn Rider, c'est quand même.
Irrévérencieux.
Oui, c'est du Disney, moi je trouve. Réponse est une princesse entreprenante. Et ça aussi, on ne nous avait pas habitués. C'est un personnage fort aussi.
Mais est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas qu'elle est une princesse?
Sans doute.
Parce que moi, ce qui fait qu'elle est forte, c'est parce qu'elle est. Enfin, elle n'a pas été élevée dans ce milieu de princesse. Elle a été élevée dans sa tour. Elle est sauvage parce qu'elle rencontre jamais personne. Son meilleur ami est un caméléon, disons-le. Elle dessine, elle fait de la peinture. Elle est, enfin voilà. Mais elle n'a pas été élevée dans cet univers de princesse. Et je pense que c'est aussi ça qui fait d'elle une jeune fille un peu sauvageonne et forte.
Oui.
Ben après, c'est sûr qu'elle elle restera une princesse comme ça. Enfin, on ne peut plus changer sa personnalité. Mais je pense que le fait qu'elle n'a pas été élevée en tant que princesse joue sur sa personnalité.
Non, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que ça était un peu sur l'ambiance de Shrek. Bon, il n'y a pas le caca pipi et tout. Mais on est sur un peu les mêmes sketchs, ouais. les mêmes blagues, etc. Enfin, je trouvais ça bien parce que Shrek, c'est très bien.
Ouais. Moi, j'adore le cheval.
Ah oui, le cheval est très amusant.
Le cheval est un chien, mais en cheval.
Oui, mais...
en fait, c'est un cheval, mais il se comporte comme un chien. Et il est incroyable.
Mais ça, c'est très à la mode. Dans Dragon, c'est pas des dragons, ce sont des chats. Donc...
c'est un vrai. Chat. C'est pas tous des chats. C'est juste oui. Un. Vraiment. Et du coup, oui, là, c'est un... c'est un cheval qui se comporte comme un chien. C'est plutôt très amusant. D'ailleurs, c'est lui qui arrive à... Il course Flynn Rider mieux que l'armée elle-même.
Ah oui, c'est un cheval qui fait des choses qu'un cheval ne pourrait pas faire.
Non, c'est très amusant. Et au niveau visuel, je pense que ce film a grandement inspiré La Reine des Neiges.
Pas que visuellement.
Oui, pas que visuellement, mais même au niveau de la force des personnages féminins ou de l'histoire et tout ça. Et je pense que si ce film n'avait pas existé, on n'aurait pas La Reine des Neiges comme on l'a connue.
Moi, je trouvais que ça sentait le début de l'ère Reine des Neiges, justement, où il y avait des personnages féminins très forts au centre de l'intrigue, auxquels les petites filles pouvaient s'identifier, visuellement, comme tu l'as dit, ça s'en rapproche, et dans la qualité des chansons aussi.
Ah oui, les chansons sont bien.
Les chansons sont cool, et donc on dirait une sorte de bêta-test à la Reine des Neiges, pour reprendre un langage vidéoludique.
Désolé, j'ai vraiment arrêté tout de suite.
Voilà, c'est tout pour les films, et nous allons maintenant passer au documentaire. Ce mois-ci, Hugo Clément nous a donc fait traverser l'Atlantique et nous a envoyé sur le front de l'Amazonie. C'était sur France 5 et donc aussi maintenant sur Salto. Nous avions déjà beaucoup aimé les trois émissions précédentes. Le format a cette fois-ci un peu changé, donc déjà ça a changé de chaîne, mais on est sur une émission plus courte qui dure à peine une heure. Et moi, j'ai encore une fois beaucoup aimé. J'aime généralement, je ne suis pas très objectif, j'aime bien ce que fait Hugo Clément. Donc cette fois, ça m'a encore plu. Pas forcément pour des bonnes raisons, puisque ce que raconte ce documentaire est assez grave. On va péter un peu l'ambiance, hein, mais voilà. C'est assez grave et c'est pas du tout... voilà, l'avenir qu'il nous présente, en tout cas, n'est pas des plus gais.
J'ai regardé, moi aussi.
Bah oui.
Non, mais...
Moi, j'ai pas vu. Si on fait la liste aussi, les gens...
On dirait qu'on vote. Et du coup, oui, j'ai regardé aussi, en même temps, d'ailleurs. Et j'ai au bout d'une... Enfin, à la fin du documentaire, alors déjà, j'étais bouleversée. J'ai pleuré, comme un bébé. Mais c'était pas genre en mode « je suis triste », c'était plus en mode « je suis vraiment énervée ». Enfin, c'était vraiment une sensation... c'était de la tristesse un peu colérique, si je peux dire. En gros, Hugo Clément nous emmène en Amazonie et nous montre que la forêt amazonienne est dévastée. Alors, par les chercheurs d'or, premièrement, qui cherchent de l'or, et du coup, ils font des espèces de... Enfin, ils détruisent tout et ils mettent du mercure dans les courants d'eau, ce qui fait que les poissons meurent, et en plus de ça, la population meurt également, et enfin meurt pas, mais a des malformations et des problèmes un peu de ralentissement mental, si je peux dire. Enfin, en gros, ils ont des problèmes à apprendre, ce genre de choses, parce que bah, ayant consommé du mercure dans les poissons, ils tombent malades. Donc heureusement, il y a des médecins qui sont là-bas et qui comment dire, informent la population de ce problème et leur permet de leur dire bah, vous pouvez consommer tel poisson, celui-là non, pour réduire ce taux de mercure dans leur organisme. Mais quand même, c'est horrible. Ces gens empoisonnent leur peuple, clairement, parce que c'est le même peuple, c'est les chercheurs d'or, ils font aussi partie de cet endroit, et ils s'empoisonnent les uns les autres pour de l'argent.
Sans vouloir rentrer dans un méga long débat, c'est bien les gens, le peuple amérindien, non, enfin, le peuple d'Amazonie plutôt, qui empoisonne ces rivières, mais c'est pas eux qu'il faut principalement blâmer, c'est plutôt les gens qui ne mettent jamais les pieds dans la gadoue, qui financent et qui récupèrent l'argent des récoltes d'or, et c'est plutôt eux qu'il faut condamner. Voilà.
Oui, ou même les acheteurs, hein, clairement.
Ou les acheteurs. Que nous sommes, potentiellement.
Achetez plus de l'or si vous ne savez pas d'où il vient. Quoi. Là, on en est vraiment... c'est un peu la morale du truc. Enfin, Hugo Clément ne le dit pas dans ce reportage. Il le dit, par contre, sur ses réseaux sociaux après la diffusion du documentaire. On est responsable de tout ça. Et c'est sûrement ça qui est autant... qui fait qu'on est... Enfin, moi, j'étais vraiment énervée à la fin de ce documentaire. Après, il y a les chercheurs d'or, il y a la déforestation pour planter du soja, pour que nos bovins et autres animaux qu'on consomme puissent manger, en fait, parce qu'il faut savoir que tous les animaux qu'on a dans notre assiette sont nourris au soja, et ce soja vient d'Amazonie, donc il est planté là-bas sur des centaines et des centaines d'hectares, et donc ça détruit la forêt. Donc on parle beaucoup du problème de l'huile de palme, mais il n'y a pas que l'huile de palme, voilà. Quand vous mangez un steak, voilà.
Indirectement, il est responsable.
Indirectement, vous participez à ça, si, bien évidemment, ça vient de... Après, il y a des éleveurs locaux qui n'utilisent pas du soja pour nourrir leurs bovins. Enfin, faut pas généraliser, mais voilà, on participe à ça également. Et après, le reportage partait aussi au Brésil, il me semble, où là, on parle également de la déforestation dans une autre thématique avec les forêts qui brûlent, en fait. Parce que pour planter ces champs de soja, ils n'ont rien trouvé mieux que de faire brûler des hectares et des hectares de forêt. Alors, en tuant bien évidemment tout ce qu'il y a dans la forêt, hein, les animaux, rien à battre. Allez, hop, ça crame, c'est super. Et non, c'est vraiment compliqué.
Bah, typiquement, l'incendie qui a ému toute la planète l'année dernière, en janvier 2020, c'était exactement ce qui se passe tous les jours et qui se passe depuis des années, qui se passe toujours encore. C'est, bah, voilà, les incendies volontairement provoqué par l'homme pour détruire la faune. Et c'est juste que celui-là, il est parti beaucoup trop loin, il n'a pas été contrôlé. Donc, mais voilà, les incendies continuent et c'est bien de mettre des stories, mais on peut faire mieux dans notre manière de consommer de manière plus responsable. Enfin, on vous encourage à regarder le documentaire, vraiment. C'est un... Contrairement à la manière dont là on le présente, il n'est pas seulement plombant, il y a quelques perspectives d'espoir. Hugo Clément rencontre des gens qui vivent là-bas au quotidien et qui ne sont pas défaitistes comme pas possible. Ils ont quand même un espoir que tout ça s'arrange, ils y croient. Donc on devrait...
Oui, ils se battent aussi. Et puis il y a des associations qui sont sur le terrain. Il y a plusieurs associations. Donc si le sujet vous intéresse, allez vous renseigner, suivez Hugo Clément, même posez-lui des questions pour avoir des infos. En tout cas, on peut tous agir à notre niveau et c'est quand même ça qu'il faut retenir et qu'on encourage.
Il a tout résumé sur ses réseaux sociaux, en story Insta principalement. Oui. Voilà. On n'a pas trop pété l'ambiance, Damien. voilà pour tout ce que nous avons vu ce mois-ci. Exceptionnellement, pour ce récapito de janvier, il n'y aura pas de sujet du mois. On s'en excuse, d'une part, parce qu'on n'a pas, réussi à trouver un programme en commun. Et on va y remédier pour le mois prochain. On va décider en direct, live, ici, ce qu'on va regarder tous les trois pour le prochain récapito, en piochant parmi les recommandations du mois de février.
Alors, on va d'abord parler des recos du mois de février et on choisira à la fin.
Oui, c'est ça que j'ai voulu dire.
Ok, donc, pour lancer le mois de février, on commence par une série qui sort le 3 février sur Netflix qui s'appelle « Toujours là pour toi ». Alors, c'est une nouveauté, hein, là on parle que des nouveautés. C'est une série qui parle de deux trentenaires, Kate et Tully, qui se connaissent depuis l'adolescence, donc elles sont meilleures amies, et on voit comment leur relation évolue. Donc c'est un peu ça le résumé de la série. C'est avec Kathleen Hegel, comment on dit ça ?
Kathleen Hegel.
Hegel, qui joue Izzy dans Grey Anatomy, donc qu'on connaît pas mal, et Sarah Schulk. J'ai un problème avec les noms, me laissez pas les dire. Qui joue dans Scrubs principalement, mais qui a aussi joué dans d'autres séries. Mais Scrubs, moi je la connais surtout pour Scrubs. Donc voilà, je crois que c'est des épisodes courts. Mais moi j'ai bien envie de regarder ça, ça a l'air sympa, tranquillou. Ça suit deux meilleurs amis. Moi, petite série feel good, enfin ça me dit bien.
On ne sait pas si c'est feel good. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas l'air si feel good. C'est des gens qui se trahissent.
Mais c'est une histoire de vie. C'est pas... Voilà. C'est comme ça. Ça arrive dans la vie, déjà. Tu vois, pourront-elles se réconcilier ?
Oui.
Moi, j'ai envie de savoir. Alors, sinon, le 5 février, sur Netflix, encore, il y a un film coréen qui sort et qui fait un peu de bruit. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « Wow oh, !» Ça s'appelle « Space Sweepers ». C'est un film de... Comment on peut dire ? De
science-fiction.
Science-fiction. Voilà, je trouvais plus mignon. De science-fiction, qui se passe en 2092. Alors, le synopsis nous dit « Après avoir réussi à récupérer une navette spatiale lors d'une chasse aux débris, l'équipage de Victory découvre une fillette de 7 ans à l'intérieur. Réalisant qu'elle est le robot humain recherché par les gardes spatiaux de l'UTS, il décide de demander une rançon. » Alors, le synopsis a l'air plutôt simple, une histoire dans l'espace, mais moi j'ai regardé la bande-annonce et ça envoie du lourd, quoi. C'est vraiment... ça a l'air vraiment trop cool. Non ?
Si, ben moi je suis très curieux parce que les Coréens ont une manière de filmer et de raconter les choses jusqu'ici dans des films plutôt contemporains qui est très singulière. Enfin, ils ont une manière de faire qui est différente des autres. Donc les voir faire du blockbuster sur le modèle hollywoodien, je suis très curieux et j'ai très envie de voir s'ils peuvent apporter un truc en plus. Parce que déjà, ça a l'air d'être un scénario original, donc ça fait du bien au paysage des films de science-fiction, que ce ne soit pas une adaptation. Et donc, j'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir proposer quelque chose de différent et de neuf.
En tout cas, moi, visuellement, ça m'a fait penser à... Enfin, je regarde pas mal de dramas, enfin, de temps en temps, et ça m'a fait penser un peu à Hololove ou des dramas, certes, qui se passent à notre époque, mais qui utilisent des technologies avancées, ou comme ils avaient fait dans Love Alarm aussi. Oui. Enfin, c'est des choses que j'aime beaucoup au niveau du design. Oui, design graphique, si je peux lire. Et j'aime bien. Damien, un avis ? Je t'ai montré
la bande-annonce. J'ai juste vu la bande-annonce et ça a l'air assez cool. Ça ressemble à un space opéra. Ça a quand même l'air un peu occidentalisé, quand même. Enfin, dans les décors et tout.
Bon, en fait,
ça fait pas forcément très...
En fait, il faut savoir qu'en Corée, ils sont très inspirés par tout ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, voilà. Pour continuer, toujours le 5 février, il y a des choses qui sortent beaucoup début février, dis donc. Malcolm et Marie, donc ça c'est un film également. Film très attendu en noir et blanc avec John David Washington qui jouait dans Tenet et Zendaya. Donc c'est un huis clos, si je peux dire. Ça se passe, si j'ai compris, il y a deux acteurs, ils sont que eux.
Ah ouais ?
Bah, en tout cas, dans la bande-annonce, moi je le vois comme ça. Je le vois, ils sont que eux, huis clos, noir et blanc, où il n'y a que eux. Enfin, le résumé nous dit...
C'est un podcast, quoi, du coup.
Le résumé nous dit, après la projection en avant-première de son dernier film, un cinéaste rentre chez lui avec sa petite amie. Alors qu'il est certain que son film rencontrera un succès critique et commercial, la soirée prend une tournure inattendue. Les deux amoureux doivent affronter certaines vérités sur leur couple qui mettent à l'épreuve la force de leurs sentiments. Donc moi, quand je lis ça, je comprends que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu la bande-annonce, il n'y avait que eux. J'ai rien d'autre qu'eux. C'est eux dans la salle de bain, eux dans la chambre, eux dans la cuisine, mais c'est que eux.
Et c'est le couple, du coup.
C'est le couple, ouais. Par contre,
ça
couple,
me pose un problème.
Ce couple un peu étonnant.
Bah oui, parce que Zendaya, malgré, je crois qu'elle a 25 ans, on dirait qu'elle est restée coincée à 20, et John David Washington, on a plus l'impression de voir, il a au moins 35 ans. Donc du coup, quand on les voit, il y a 15 ans de différence, et j'y crois pas trop à ce couple. C'est très bizarre.
Bah c'est sûr que dans
The Greatest Showman.
Ouais, ouais, et bah Zendaya était avec... Comment il s'appelle ?
Zac Efron.
Avec Zac Efron, et ben ça passait mieux parce qu'on avait à peu près l'impression qu'ils avaient le même âge. Que là, c'est vrai que John David Washington a quand même l'air d'être pas mal plus vieux qu'elle, et ça fait un couple étrange.
Ils ont 12 ans de différence entre les deux. C'est vrai que ça commence à faire.
Bah, déjà.
Mais après, je sais pas quel âge elle a dans son rôle de mari. Hein.
Oui, c'est ça aussi.
Oui, mais bon.
Ils l'ont peut-être grimé.
Bah, pas dans les bandes annonces. Mais moi, je suis désolé, pour moi. On peut nous dire qu'elle a 28 ans si c'est pas dit et que j'ai l'impression qu'elle en a 20, et ben oui, je suis quand même embêté.
Oui, mais si à l'inverse, en fait, c'est un scénariste, c'est un cinéaste, il vient de sortir un film, donc ça se trouve, bah lui, il a bien ses 35 ans, mais il sort avec une fille de 20 ans, quoi.
Après, c'est possible.
Ça se trouve, c'est ça l'histoire.
J'ai le droit aussi d'être gêné.
Oui, mais du coup, ça pourrait être ça l'histoire.
Mais c'est possible.
Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Je crois qu'il est pas très long, 1h36, mais je suis pas sûre. Enfin, j'ai essayé de vérifier, mais j'ai pas retrouvé l'info.
On verra.
Damien, la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine qui sort le 8 février sur Netflix, donc on en a déjà parlé.
Ouais.
Mais on va pas en reparler.
Coup, non, ça vaut pas le coup.
Ah, tu l'as coupé. Tu l'as coupé l'herbe sous le pied. Paf.
On peut juste dire la nouvelle intrigue, elle bouleverse complètement les hiérarchies dans le commissariat. Du coup, c'est.
Interrogation, est-ce que ce sera la dernière saison ou pas ?
Je ne crois pas, mais d'accord. Je suis pas sûr à 100%. Je vais aller vérifier tout de suite.
D'accord, bon, tu nous tiens au courant d'ici la fin de l'émission. Le 12 février sur Netflix, encore beaucoup de choses sur Netflix. J'avoue que j'ai presque.
On va se désabonner des autres.
Bah non, mais j'ai. Ouais. À tous les garçons que j'ai aimés, donc le troisième film, troisième volet de la trilogie À tous les garçons que j'ai aimés, qui s'appelle, son titre original normalement c'est Pour toujours et à jamais, donc c'est le troisième, c'est issu du troisième tome, donc c'est une série de livres qui nous parlera de Lara Jane et de Peter, ce petit couple trop mignon chouchou, et la question sera ce couple va-t-il tenir pour toujours et à jamais. On n'en sait rien. Mais moi, j'ai hâte de la retrouver. J'avais beaucoup aimé le premier film.
J'ai pas vu.
Le deuxième aussi. Le premier, j'avais beaucoup aimé. Le deuxième, j'étais un peu en mode... Donc le troisième, on verra.
Ce qui est très explicite comme état d'esprit.
Je crois, si je me rappelle, dans le deuxième, c'est... ils sont en couple, mais il y a un des mecs à qui la Rajen a envoyé une lettre d'amour, qui reçoit sa lettre d'amour. Enfin, en gros, un mec de qui elle était amoureuse avant qui revient, et il se tourne un peu autour. Du coup, Peter est jaloux, mais finalement, ils finissent ensemble. Ou alors, Peter est dans une autre école, enfin, je sais plus. Mais ça m'avait pas beaucoup marqué, j'avais pas trop aimé. Donc là, c'est le final. On va voir. Mais c'est une comédie romantique, et moi, j'aime bien les comédies romantiques pour les adolescents. C'est mon truc à moi.
Il y a bien une saison 8 pour Brooklyn Nine-Nine.
Ah, formidable.
Nous sommes ravis de l'apprendre. Donc, nous pourrons reparler de Brooklyn Nine-Nine. On en parlera le mois prochain, déjà. Le 24 février, toujours sur Netflix, Ginny et Georgia, c'est une série, donc ce sera la saison 1. Alors, Netflix la vend comme... Enfin, Netflix la vend, non. Netflix en parle comme son Gilmore Girl à lui, même dans la bande-annonce, hein, dès les 2-3... 30 secondes, dès les 30 premières secondes.
Déjà, il y a un indice très caché où Ginny et Georgia, ça fait GG comme Gilmore Girls. Oh là là.
Donc oui, dans la bande-annonce, ils disent on est un peu comme dans Gilmore Girls avec plus de seins. Nous dit Georgia, qui est la maman. Le synopsis, Ginny Miller a 15 ans. Elle se sent parfois plus mature que sa mère, l'irrésistible et dynamique Georgia. Après de nombreuses années d'errance à travers le pays, cette dernière décide enfin de s'implanter quelque part. Ginny va apprendre à quoi ressemble la vie normale d'une adolescente.
Je vous propose de relire ce synopsis en remplaçant Ginny par Rory et Georgia par Lorelai.
Non, ça marche pas parce que dans Gilmore Girl, Lorelai et Rory ont toujours habité à Stars Hollow. Elles n'ont jamais bougé. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Et quoi qu'il arrive, je pense pas que cette série va détrôner Gilmore Girls de mon cœur. Hein. Rory sera toujours là, Lorelai aussi.
Déjà, quand on arrive et qu'on dit on va être le nouveau Gilmore Girls, il y a une chance sur deux pour que ça ne soit pas le cas.
Oui, et puis même, je trouve ça un peu, comment dire, comment on dit quand ils se prennent un peu pour n'importe qui? Tu vois, genre...
Au sérieux ?
Ouais, voilà, ils se prennent un peu... je trouve ça un peu se prendre au sérieux de commencer sa bande-annonce avec la mère du truc qui dit « On est un peu comme les Gilmore Girls avec plus de sang. »
C'était peut-être juste une blague.
Et d'abord...
Non, elle faisait clin d'œil, wink, wink.
Et d'ailleurs, elles ne sont pas comme Lorelai et Rory, car il s'avère que Ginny a un petit frère.
Ah, d'accord, j'avais pas vu.
Ouais, je l'ai vu, j'ai vu un enfant et apparemment ça serait son petit frère.
Non, et surtout la grosse différence, et c'est pour moi symptomatique des séries du moment, c'est que Georgia a l'air d'avoir un passé très dark, où elle a plein de secrets, elle cache des choses.
Ils annoncent ça, qu'en fait il y a des secrets. Donc en gros, ça sera pas une petite histoire de Stars Hollow tranquillou où on suit juste une mère et sa fille tranquillou qui va au lycée et l'autre qui vit sa vie. Non, il y aura forcément une intrigue. Mystère, police, ou d'ici que dans qu'au milieu de la série on se retrouve dans Riverdale, on y sera peut-être, tu vois. Enfin, je vais regarder parce que ça m'intrigue, mais voilà, j'y crois pas trop. Alors, sinon, il y a d'autres choses qui arrivent sur Netflix qui ne sont pas des nouveautés ou qui arrivent sur d'autres plateformes d'ailleurs, parce que je parle de Netflix, mais non. Alors, Damien me disait qu'il y avait American Gods saison 1.
Oui. Je sais pas si c'est que saison 1 en fait, du coup, s'il y en a plusieurs autres qui sont sortis, mais en tout cas, c'est un épisode par semaine et ça commence à la saison 1.
D'accord, donc en fait, c'est juste qu'ils rediffusent American Gods. Mais en fait, je crois que ça n'a pas été diffusé en France. C'est pour ça qu'en fait.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouveauté si ça n'a pas été diffusé?
Ça date de 2017, ou alors peut-être sur OCS. Enfin, tu vois,
En tout cas, le livre est bien, il a eu un prix Victor Hugo et tout.
Oui, avec... Oui.
Victor Hugo donne encore des prix.
Ouais.
Pas mal.
Okay. Il le décongèle tous les ans, il me dit « j'ai tout lu ».
C'est moi qui l'ai lu.
Autrement...
Mais attends, je suis en train de chercher, ça m'intrigue cette histoire.
Eh ben, tu nous diras dès que tu as l'info, tu n'hésites pas, tu interviens.
Mais non, ça, je veux savoir sur quelle plateforme ça a été diffusé. Ah, Stars. C'est Stars. Non, ça n'a pas été...
C'est pas le même nom.
Non, non, c'est une chaîne Stars, mais ça n'a pas l'air d'avoir été diffusé. Donc oui, c'est peut-être une première diffusion en France.
Donc c'est une nouveauté.
Bah, pas vraiment. 2017, quand même.
Allez, on te la donne. On te la donne. Autrement, il y a des films qui arrivent. Il y a le retour... De retour vers le futur 1, 2 et 3 sur Netflix à partir du 16 février. Et
oui, ils y avaient déjà été.
Ils y étaient, ils ont dû partir. Ouais. Et ils sont de retour. Donc, bon, moi, dès qu'il y a du retour vers le futur, ça me donne envie de regarder tout le temps. Il y a aussi Jurassic Park 1, 3 et Jurassic World. C'est très bizarre.
Mais attends, Jurassic World, il y était déjà. Jurassic Park y avait été.
Ouais, mais ils les ont tous enlevés pour les remettre.
Je sais pas où est le 2, peut-être qu'ils l'ont déjà, peut-être qu'ils ne l'ont pas. Voilà, mais bon, du coup, t'as une saga un peu émiettée.
Ouais, t'as pas le 2 par contre.
T'as pas le 2. voilà pour ça. On a des séries à finir aussi.
Oui, alors on va parler, je les énumère juste, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Alors moi j'ai à finir Star Trek Discovery, Damien aussi je crois.
Oui.
J'ai regardé un épisode depuis le mois dernier. Autant dire que cette saison me passionne pas trop pour le moment. Is Dark Materials, c'est pas une question de passion, c'est juste que j'ai pas eu le temps de continuer, donc il me reste toujours 4 épisodes. Vandavision.
Pas le temps de continuer, mais par contre, passer 3 jours devant Buffy, là, il y a le temps. Hein.
Oui, mais voilà, mais c'était parce qu'on devait
3 jours
finir.
De 24 heures.
Oui, mais on devait finir Buffy. Enfin, tu vois, c'est. Il y a des choses comme c'est inexplicable. Hein. C'est comme quand je lis un livre, que je l'arrête pour en prendre un autre et que je le relis 2 mois plus tard. Enfin, c'est. Je sais pas. Vandavision.
Oui, tu continues.
On continue à regarder. Normalement, ça devrait aller jusqu'à début mars. Première semaine de mars. Donc là, on a l'épisode 4. Il y a juste Emilia et moi qui regardons. Damien, il rattrapera peut-être.
Oui.
Comme ça, on pourra en parler en mars. Ça pourrait être le sujet du mois de mars. Du mois de mars. Je me fais des autoblagues. moi, je dois continuer Dawson. Bah, il me reste un épisode avant.
Je dois continuer.
Oui.
T'es pas obligé de t'obliger.
Non, mais je voilà. Le midi, c'est mon petit truc. Je regarde un épisode de Dawson. Et je me lis quelques pages d'un roman et je suis bien. Et après, je raconte à Emilien, ce midi, c'était beaucoup d'émotions.
Et Dawson m'a énervé.
Dans Dawson, il s'est passé ça. Dans mon livre, il s'est passé ça. Hein. Du coup, bah, Dawson, il me reste un épisode pour finir la saison 2. Donc, on pourra vous parler de la 2 et peut-être de la 3 si on est motivé le mois prochain. Hilda. Je sais pas si vous connaissez, si tu connais.
Pas du tout.
Bah, c'est une série animée qui est sur Netflix. J'avais regardé la saison 1, j'avais adoré. Et là, je suis peut-être à la moitié de la saison 2 et je trouve ça toujours aussi bien. Et sinon, il y a d'autres trucs, toi, que tu regardes ?
J'ai la saison 2 de Star Wars Resistance que je vais regarder ce mois-ci aussi.
Et
c'est de mieux en mieux en plus, Resistance.
Et là, t'as un truc à regarder ?
Bah, je regarde toujours Good Doctor.
Ah oui, The Good Doctor. Et quoi
sur Salto maintenant.
Bah, t'as pris Salto ?
J'ai pris le mois gratuit.
Ah oui.
Bah, la suite de Good Doctor était sur Salto.
Le mec qui suit, il va où ça va. Et rien d'autre ?
Non, je crois pas. Bah, du coup, on va commencer Vendavision.
Et sinon, bah, pour la liste des rattrapages, on est toujours au même point. Hein.
Ah si ! Attends, je sais pas, c'est une petite parenthèse, mais j'ai lu. Je sais, ça n'a pas trop de rapport. Mais c'est parce qu'on a parlé de Star Wars.
Bientôt, le récapito, ce sera les séries, les films et les lectures.
Attends, j'ai juste un doute sur le titre du livre et je ne veux pas dire de bêtises. La Haute République, la lumière des Jedi.
Oui.
Et c'est super bien.
Ah, je ne sais même pas que c'était sorti.
C'est parce que ce n'est pas sorti, je l'ai lu en anglais.
Ah, malin. Bon, bah,
ça sort en mars.
Je ne m'y tenterai pas. Mais oui, il y a des.
Sorties,
et vraiment, c'est trop cool. Enfin, j'ai jamais lu de livre Star Wars, donc je sais pas comment sont les autres. Mais ça se lit comme de l'ASF, trop bien. Quoi.
Sachant que c'est différents auteurs à chaque fois, il y a du bien et du pas bien. Quoi.
C'est Charles Soule, je crois qu'il en a écrit.
Je sais pas, moi j'en ai lu qu'un. Il y a un article sur le blog, sur Ahsoka,
ouais.
que j'ai bien aimé aussi. Et dans les rattrapages.
Mais non, mais j'étais en train de. Il y a une autre série qu'on regarde là.
Ah.
Bride, je sais plus quoi.
On peut vraiment dire qu'on l'a commencé.
Bah oui, on a regardé le premier épisode. Bah on continuera. C'est une série avec. Comment il s'appelle l'acteur ?
Martin Freeman.
Ah bon ?
Oui.
Et bah c'est une série avec cet acteur-là.
Ah bah oui, c'est celle dont vous avez parlé plus tôt. Quand vous avez dit oh, il est bien dans Love Actually.
Ouais, oui. Et bah on regarde une autre série où il est dedans et on en parlera plus tard. Mais oui. C'est plutôt encourageant.
Quand on aura plus d'informations dessus. autrement, c'est la liste habituelle des rattrapages. Donc rien de nouveau sous le soleil. Sauf, moi j'ai proposé qu'on regarde OVNI, une nouvelle série française sortie sur Canal+. J'ai eu quelques bons échos. Ça a l'air d'être une sorte de... très éloigné, mais de Stranger Things français, parce que ça parle de science-fiction, d'OVNI. Et c'est dans les années 80, et c'est très identifié années 80. Donc ça a l'air plutôt amusant. Et voilà.
D'accord. Du coup, on choisit quoi pour le sujet du mois prochain ?
Moi, je vote pour Space Sweepers.
Pareil.
Moi aussi. Bon, et ben, voilà. À l'unanimité, le sujet du mois prochain sera Space. Oui, Sweepers. Sweepers. Oula, j'arrive plus à le dire.
Sweepers, c'est comme les trucs pour nettoyer.
Swiffer.
C'est pas pareil. Non, mais c'était marrant. On valide. Voilà pour ce récapito de janvier. Au final, on a eu beaucoup de choses à dire.
Enregistré le 31 janvier. Débuté à 10h, fini à 12h39.
Je trouve qu'on s'en est bien sorti, qu'on ne s'est pas endormi du tout. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, à aller mettre 5 étoiles sur iTunes, si vous voulez, et à lire nos articles qui continuent de paraître sur le blog.
Plaid.fr.
J'étais en train d'hésiter s'il fallait dire les 3 W ou pas, mais bon,
Sur nos réseaux sociaux, on est toujours sur Instagram, on est Emilien et moi sur Twitter. Je sais pas si Damien a Twitter.
Oui, mais Twitter, pour le boulot.
Non, il a pas. Et sinon, ouais, on est sur le compte Instagram de Plaid principalement, parce que Facebook en ce moment, moi, c'est fini.
Je ne sais plus utiliser Facebook.
C'est la débandade.
C'est fini, t'es à la fin.
Je ne sais plus utiliser Facebook.
Alors vraiment, l'autre jour, petite aparté, j'ai vraiment mis 10 minutes pour essayer de mettre une image sur une page. Sur le truc gestion de page, j'ai mis 10 minutes pour mettre un gif. Et ça n'a pas marché.
Ouais, donc non, clairement, c'est fini Facebook. Donc Instagram, on est sur Insta, par
voilà,
contre, on aime bien. Et vous pouvez retrouver sur Insta nos chroniques littéraires. Du coup, on parle pas de livres dans le récapito, mais on lit pas mal de trucs, et c'est sur le blog. Voilà, Damien s'est tapé un fou rire, je sais pas pourquoi.
Bon, on parle aussi de films quand les cinémas réouvriront, bien sûr. Croisons les doigts. On vous souhaite une bonne journée.
Une bonne nuit, un bon week-end, voilà.
Ça dépend à quel moment vous regardez.
Exactement.
En fait.
Écoutez.
Oui.
Ça, c'est les soucis, ça. À la prochaine, au mois prochain. Des bisous. Salut.
Salut. The torch I bear is scorching me. Buffy's laughing, I have no doubt. I hope she fries, I'm free if that bitch dies. I better help her out, cause she is drawn to the fire. Some people she will never learn, and she will walk through the fire and let it. Will this do a thing to change her? Am I leaving Dawn in danger? Is my slayer too far gone to care? What if Buffy can't defeat it? Beady eyes is right where needed. Or we could just sit around and glare. We'll see it through. It's what we're always here to do. So we will walk through the fire. So one by one they turn from me. I guess my friends can't face the cold. But why I froze, not one among them knows. And never can be told. She came from the grave much graver. First he'll kill her, then I'll save her. Everything is turning out so dark.
know of Shaver, then I'll kill her.
And what I think this land's mostly filler.
It's what they take to strike a spark.
These endless days are finally ending in a blaze.
And we are caught in the fire. The point of no return. So we will walk through the fire and let it burn.
Showtime.